Je vous remercie beaucoup d'être venu. On va pouvoir démarrer ce cycle de conférences sur la pensée de Manitou autour du thème de l'exil et la délivrance. Alors, je vous rappelle que ce cycle va avoir 5 volets et qu'aujourd'hui, on va tenir les 2 premiers volets. On va traiter de la partie présentation et témoignage. Et puis ensuite, on parlera du second volet, du projet de la création, selon Manitou. Avant de laisser Antoine Mercier vous présenter notre premier volet, je voulais simplement vous indiquer que ça fait très longtemps que je voulais organiser cette conférence autour de la pensée de Manitou, qui est une pensée qui m'a beaucoup marqué, que je trouve plus que jamais d'actualité. Songez qu'on va fêter très prochainement les 20 ans de sa disparition. Et c'est vrai que cette conférence n'arrivait pas à aboutir. On n'arrivait pas à aboutir et à réaliser cette conférence. Et en fait, il a fallu un certain nombre d'événements, de rencontres, pour permettre d'arriver à réaliser cette conférence. Et je voudrais ici remercier très sincèrement 5 personnes qui ont permis que les choses se fassent. Je vais le faire rapidement. La première personne que je voudrais remercier, c'est Gilles Mihaili, le directeur de Causeur, avec lequel j'ai beaucoup échangé, qui m'a beaucoup conseillé, beaucoup aidé, beaucoup apporté. Mais je crois que plus que tout, ce que Gilles a fait, c'est qu'il m'a rappelé qu'on avait chacun notre capacité à agir sur les choses. Que pour résister au conformisme, il fallait utiliser notre faculté de responsabilité. Et que c'est sur un détail que les choses se font ou ne se font pas. Donc un grand merci à Gilles pour m'avoir permis de me rappeler qu'il fallait utiliser notre capacité à agir sur les choses. En second lieu, je voudrais remercier le Rav Yosef Atoun, qui n'est pas là aujourd'hui, qui lui aussi est un fidèle élève de la pensée de Manitou, qui est désormais un grand maître, et qui m'a beaucoup aidé, beaucoup accompagné, présenté à beaucoup de monde, pour permettre que les choses se fassent. Pour dire les choses raisonnablement, je pense que s'il n'avait pas été là ou à mes côtés, cette conférence ne se serait pas tenue. Et puis je voudrais bien entendu remercier les 3 autres intervenants qui sont à mes côtés. Antoine Mercier, tout d'abord, que je pense certains d'entre vous connaissent très bien, qui est journaliste, qui a spontanément accepté de participer à cette conférence, alors même qu'au début, l'organisation n'était pas tout à fait réalisée. Richard Darmon, qui nous fait l'immense plaisir de venir spécialement d'Israël pour participer à cette conférence. Merci beaucoup. Et puis, bien entendu, le Rav Uri Cherki, fidèle élève également de Manitou, dont certains parlent comme étant un des successeurs de Manitou, mais je pour ma part, je ne m'avancerai pas, et qui vient lui également aussi, spécialement d'Israël, pour animer, présenter, participer à cette conférence. Voilà, merci beaucoup.
Merci, merci Olivier Cohen pour avoir donc organisé cette rencontre. Bonsoir à tous. Quand vous m'avez aimablement proposé de retracer les grandes étapes de la vie de Manitou, j'ai accepté spontanément, très volontiers, pensant qu'il me suffirait de rassembler les quelques données qui sont déjà établies sur ce parcours tout à fait exceptionnel. Et il m'est quand même apparu assez rapidement que la tâche n'était pas si aisée que cela si on voulait quand même, à travers les événements d'une vie, retracer un fil, un esprit, tirer un fil susceptible donc de suggérer ce que cette personnalité avait à la fois de complexe et en même temps tendu vers une seule direction, une cohérence absolue dans la diversité des approches qu'il a pu pratiquer. Alors, ça a été évidemment plus compliqué que prévu. Je vais commencer par vous dire ce que j'avais prévu initialement de vous dire dans une vie, disons, avec en déclinant les principales étapes. Il faut évidemment rappeler que Yehuda Léon Ashkenazi est né le 21 juin 1922 à Oran, que son père David était à l'époque grand rabbin de cette ville d'Oran, qui descendait d'une famille de juifs originaires de Pologne, et qu'il va devenir ensuite son père, donc grand rabbin d'Algérie. Voilà pour le côté paternel. Sa mère, elle, est une descendante de juifs originaires du Maroc. Le grand-père maternel, Le Rav Chaim Im Touboul était Dayan à Oran et il était surtout un éminent kabbaliste. Donc, Vid Manitou, qui se décompose, on le sait, en trois grandes étapes. L'enfance et la formation en Algérie jusqu'à la guerre, donc. La carrière d'enseignant et de maître en France jusqu'en 1968. Et puis, la période postérieure, 68, l'alia, l'accomplissement, on va dire, hébraïque jusqu'à sa disparition en 96 à l'âge de 74 ans. Enfance et formation en Algérie, donc jusqu'à l'âge de 20 ans, où il y reçoit un enseignement à la fois traditionnel et une scolarité tout à fait classique, j'allais dire, au lycée laïque d'Oran jusqu'au baccalauréat. Et puis en 43, il est donc mobilisé dans l'infanterie coloniale, participant l'année suivante à la libération de la France, où il sera d'ailleurs blessé. C'est donc après-guerre que va commencer la deuxième période. En 46, il intègre la première promotion de l'école des cadres Gilbert Bloch d'Orsay. Il y devient d'ailleurs dès l'année suivante à la fois enseignant de judaïsme et même directeur adjoint de cette école. Entre-temps, il s'est marié à Oran avec Esther Papierman, rescapée de la Shoah, qui faisait aussi d'ailleurs partie de cette première promotion d'Orsay. Manitou, nommé en 63 à la direction de cette école, 63, il va occuper ce poste jusqu'en 58, et pendant toutes ces années, il va aussi intensifier son engagement, il faut le rappeler, son engagement communautaire aux éclaireurs israélites de France d'abord, mais aussi à la direction de l'Union des étudiants juifs de France, et au département de l'éducation de la jeunesse juive, où il va animer notamment la formation des cadres. Quelques dates importantes sur cette période, on va dire période française. 55, premier voyage en Israël, et l'année suivante, donc 56, rencontre, que l'on dit, décisive à Jérusalem avec le Rav Tzvi Yehuda Kook, qui va devenir son maître, j'en dirai un mot tout à l'heure. Autre date, 57, les premiers colloques des intellectuels juifs de langue française, dont il va être une des figures éminentes, principales, et puis en 62 aussi la création du Centre communautaire de Paris. Troisième période, après donc la guerre de six jours, il monte en Israël en 68, il devient directeur du lycée français de l'agence juive de Natania, et puis ensuite il prend la direction de l'école rabbinique séfarade de Jérusalem. Un peu plus tard, en 73, il va y fonder le fameux institut Mayanot à Jérusalem, donc qui va proposer un programme d'études d'un an pour les juifs francophones. Et en fait, au total, il va suivre 13 promotions de cette école, de cet institut, jusqu'en 88. Il ouvre aussi, toujours à Jérusalem, le centre Yaïr, c'est un centre d'études juives et israéliennes. Il va d'ailleurs en implanter d'autres de ces centres dans d'autres villes d'Israël. Il meurt le 21 octobre 1996, donc après 15 années très dures de lutte aussi contre sa maladie, le cancer. Et donc, vous l'avez dit, il y aura exactement 20 ans cette année. Voilà donc ce que j'avais un peu en tête de vous dire au départ. Puis je me suis dit quand même, si vous me permettez d'ajouter quelques mots pour essayer de ressaisir cette continuité d'événements dans une cohérence plus spirituelle, parce qu'il m'a paru que l'énoncé factuel de ces repères, pour exacts qu'ils soient, du moins j'espère qu'ils sont exacts, c'était quand même une sorte de travestissement, d'assèchement de la dynamique propre de cette existence qui ne se laisse pas enfermer, je crois, dans un temps figé, dans un temps découpé ou dans un temps aplati. Car la vie de Manitou, quand on l'observe avec du recul, ce que je peux faire facilement pour ne pas l'avoir connu, évidemment, recèle une puissante et profonde unité, celle d'un homme inscrit dans une temporalité dont chaque moment est marqué du sceau de l'idéal juif, une tension vers son accomplissement concret. À tous les instants, Manitou est donc tendu vers cet horizon qu'on pourrait appeler horizon d'attente, où se rencontrent le réel concret, l'existence, la vie de tous les jours, et ce projet à venir, ou ce projet en train de s'accomplir tel qu'il le vivait à tout instant. Et cette diversité marque d'ailleurs déjà ses origines familiales, dont je disais un mot tout à l'heure, puisque d'un côté, donc du côté de sa mère, c'est une lignée de juifs d'Espagne, et du Rav Yosef Im Touboul el Moghrebi, lui-même disciple du Rav Yitzhak Luria Ashkenazi, le fameux Ari, maître, comme on le sait, de la Kabbalah Svat. Et du côté paternel, on trouve dans cette lignée originaire de Pologne, Rabbi Asher ben Yehiel, le Roche, qui, après avoir fui l'Allemagne, devint rabbin en Castille. C'était au XIVe siècle. On voit donc cette sorte de lignée tout à fait extraordinaire et diverse et d'une grande, évidemment, renommée. Manitou se trouve à la confluence de ses plus grandes traditions du judaïsme, tout en restant ouvert aux études profanes. C'est aussi ça, évidemment, sa marque. À Oran, il est à la fois un élève brillant du lycée français, mais aussi de la yeshiva Etz Haim. Il va obtenir des certificats de philosophie, de psychologie à l'université d'Alger. Il va approfondir en même temps l'étude du Talmud avec le grand rabbin Finger Hout. Et évidemment, celle, l'étude de la Kabbale, mais ça se passe chez les Manitou, chez les Ashkenazis en famille. Dès qu'il arrive à Paris, après-guerre, il va reprendre des études de philosophie, des études de sociologie, d'anthropologie, avec notamment Claude Lévi-Strauss, c'est bien connu. Il dira d'ailleurs à ce propos, Lévi-Strauss n'a pas été mon maître, j'ai été son élève. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que sans doute pour Manitou, enfin c'est ce qu'il dit d'ailleurs lui-même, un maître, ce n'est pas quelqu'un qui a des élèves, ça s'appelle un professeur, mais un maître, c'est celui qui a lui-même eu un maître, ce qui donc, dans l'esprit de Manitou, montre bien comment on s'inscrit dans une lignée et non pas dans un enseignement purement, j'allais dire, universitaire. Outre l'hébreu, l'araméen, l'arabe et le français, Manitou connaît aussi le grec et le latin, donc autant vous dire qu'il porte, je crois, assez bien son nom de totem. Sa conversion, si je puis utiliser cette expression, sa conversion au sionisme intégral date en fait de cette fameuse rencontre de 56, rencontre avec le Rav Kook, lors de l'un de ses premiers voyages en Israël. Comme l'écrit Ephraim Herrera, cette rencontre va sioniser sa Torah. Manitou d'ailleurs en parlera lui-même, je le cite explicitement. « Tout ce que j'avais appris jusque-là, je l'ai revu avec le Rav Kook à travers le prisme d'Israël. En une seule nuit de juif, je redevenais hébreu. La Torah des juifs de diaspora redevint pour moi la Torah des hébreux. Avant que je connaisse le Rav Kook, je connaissais la Torah, mais le Rav Kook m'a fait descendre cette Torah sur la terre d'Israël. » En Israël, donc, Manitou va étudier, entre autres, avec d'autres grands noms du judaïsme. Il faut aussi citer le judaïsme contemporain, le Rav Schneur Zalman Schneerson, qui est le cousin du dernier rabbin de Lubavitch, et avec de grands kabbalistes, le Rav Ashlag, le Rav Mordechai Atia, aussi le Rav Levi Nachmani. Alors, une nouvelle fois, on est frappé par la diversité de la puissance de tous ces enseignements qui l'ont traversé et qu'il restituait naturellement à ses très nombreux élèves. Dans un article qui date des années 70, j'aurais encore cité cette phrase, Manitou raconte lui-même l'histoire de sa vie. Et voilà la première phrase qu'il écrit pour raconter son existence. « L'histoire de ma vie ne présente aucun caractère d'exemplarité particulière. Sinon, qu'elle est représentative d'une grande mutation d'identité qui s'est produite au sein du peuple juif. » Si on reprend la première partie de la phrase, l'histoire de ma vie ne présente aucun caractère d'exemplarité particulière, on a l'impression qu'il exagère un petit peu, mais on met ça sur sa modestie naturelle et authentique. Mais si on voit un peu plus loin et si on se saisit de ce deuxième morceau de phrase, on voit effectivement ce qu'il souligne, l'exemplarité de sa vie, en quoi elle a pu consister, sinon qu'elle est représentative d'une grande mutation d'identité qui s'est produite au sein du peuple juif. Donc Manitou renverse complètement la perspective en disant cela, il définit précisément en quoi son parcours fut précisément exceptionnel. C'est dans la possibilité de conjoindre la vie d'un homme et l'histoire d'un peuple, ce qui est facile à dire, mais quand on y réfléchit bien sur le sens profond de cette phrase, effectivement, je crois que ça se situe à une hauteur de difficulté existentielle tout à fait considérable, et c'est ce qui caractérise sans doute, on pourrait parler du génie ou de caractère exceptionnel de Manitou. Il fut ce point de jonction entre le particulier juif et le collectif hébraïque. Tout cela inscrit toujours évidemment dans cette dynamique historique qui commence avec Bereshit, sans cesse à la recherche du rassemblement du peuple sous les valeurs juives, dans la tension d'accomplir ce projet qui a présidé à la naissance d'un peuple particulier qui a vocation à devenir la lumière des nations. De quelle mutation, plus précisément, Manitou parle-t-il? De cette mutation d'identité qui s'est produite au cours du XXe siècle, et je vous propose de l'entendre encore quelques instants sur ce point précis. Il dit « Je suis né juif algérien, par ailleurs citoyen français pendant toute la première partie de ma vie. Je me suis connu comme un français d'Algérie d'origine juive. » Premier point. Deuxième partie, avec la guerre. J'ai découvert, en arrivant en France, la complexité sociologique du peuple juif, de son histoire, et j'ai rencontré donc le judaïsme ashkénaze, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus vaste. Il savait que le peuple juif, évidemment, n'était pas composé que de juifs algériens, mais c'était une découverte pour lui de se rendre compte de cette richesse et de cette diversité. Troisième partie, dit-il toujours, de ma vie se passe en Israël, en tant qu'Israélien, troisième mutation. C'est donc dans un style particulier, un exemple de mutation d'identité qui transforme le peuple juif en nation hébraïque, ou plus exactement, qui transforme un juif en israélien. J'ai vécu cette transformation, c'est là où la phrase, à mon avis, prend tout son sens, comme une histoire personnelle qui se produisait à l'échelle collective. Comme l'écrit Georges Ancel, par ailleurs, Manitou nous a enseigné une vue profondément originale sur l'histoire. L'histoire, la vérité dernière de l'histoire ne réside pas en effet dans les événements de cette histoire qui se succèdent. Derrière ces événements, l'histoire est productrice d'identité. Elle est productrice d'identité, elle est, je cite toujours Georges Ancel, l'engendrement de l'homme, ou mieux, le fils du fils de l'homme. Et encore Benno Gross, Zichrono Livracha, qui à sa façon aussi disait un peu la même chose, puisqu'il affirmait que l'on ne peut comprendre la signification et la fonction d'Israël qu'en replaçant l'événement de cette renaissance, de l'État d'Israël, et son évolution dans la continuation de l'histoire biblique et de la philosophie de l'histoire qu'elle recèle. On peut dire que le cœur de Manitou avait vraiment battu la mesure de l'histoire, son identité s'élevait en quelque sorte à l'unisson de la temporalité, du moment dans lequel il se trouvait. Il a pu superposer toutes ces dimensions, et pour le citer une dernière fois, je dirais que pour lui, l'impératif de la mitzvah signifie que nous devons faire coïncider, encore une fois, ce mot si important à mon avis pour décrire l'unité de son existence, coïncider notre existence individuelle, notre identité individuelle avec le modèle qui est Israël. Et dès que l'identité individuelle coïncide avec l'identité du modèle Israël, alors, dit-il, les promesses s'accomplissent. Parce que ce n'est pas uniquement cette jonction qu'il s'agit de faire, mais c'est cette jonction dans le but précisément de réaliser la promesse. C'est cette conjonction qui est le garant de la réalisation de la promesse, selon Manitou. Manitou va donc engendrer lui-même, on peut dire, si on peut prendre cette expression, des centaines de parcours très différents, ses élèves qui se comptent par centaines, peut-être par milliers, des élèves qui ont d'ailleurs chacun évolué dans leur, chacun selon son mode, chacun diffuse aujourd'hui sa propre manière de prolonger, en fait, cette vibration du maître. Car, comme le dit d'ailleurs un ancien élève, chacun recevait son enseignement comme s'il lui était personnellement destiné. Et c'est d'ailleurs à cela qu'on peut reconnaître sans doute la marque d'un maître, celui qui parle à tous et qui est reçu par chacun comme quelque chose qui lui est destiné personnellement. Je crois que pour que chacun, pour résumer un petit peu à ma façon, la manière dont je vois ce parcours, je dirais que selon lui, pour que chacun devienne complètement juif, finalement, il est nécessaire que le peuple juif soit au complet, c'est-à-dire soit non seulement rassemblé, mais en même temps dans cette dynamique de rassemblement de l'histoire du peuple. Voilà ce que je voulais vous dire, donc pour essayer de vous donner une première perception, évidemment très personnelle, parce que, encore une fois, c'est ce qui m'est apparu en travaillant sur ce sujet grâce à Olivier Cohen. Et je voudrais passer la parole maintenant pour le début de ce séminaire, qui ne peut donner qu'une demi-lumière, comme chacun sait, la parole à Richard Darmon, qui va nous parler donc de l'homme Manitou, que lui a bien connu, puisque vous êtes Richard Darmon, éditorialiste, analyste israélien, vous avez surtout été élève de Manitou, vous l'avez côtoyé, vous avez suivi ses enseignements pendant une dizaine d'années, je crois, donc les dernières années de sa vie à Jérusalem, et donc je vous laisse la parole pour cette évocation.
Bonsoir, et pas seulement par convention, je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque qui, si vous voulez, a une grande importance, surtout parce qu'il va se déployer dans une durée avec une dynamique qu'on ignore encore, mais qui déjà fait le rassemblement de beaucoup de points positifs. Et en fait, j'ai été convié par Olivier Cohen, qui avait entendu Yosef Hatoun, le Rav Yosef Hatoun, que je connais d'ailleurs depuis mon alliance en Israël il y a 30 ans passés, parce que nous avions participé ensemble, d'ailleurs aux côtés de Uri, du Rav Uri Cherki. On avait participé il y a, je crois, 3 ans, aux premières journées Manitou qui se sont tenues en Israël, dans l'espace francophone d'Ashdod, où il y a eu avec Benno Gross d'ailleurs et d'autres personnes. Et donc en fait, j'étais intervenu dans ce colloque, et Yosef Atin qui souhaitait, comme vous le disiez, que non seulement nous analysions ce qu'est la pensée de Manitou, mais aussi qu'on parle de l'homme, m'a suscité finalement, m'a demandé pour venir vous parler pendant un petit moment, j'allais dire d'abord d'une série de témoignages recueillis pas seulement par moi-même, puisque comme vous le disiez, j'ai pendant les 10 dernières années, en gros de la vie de Manitou, c'est-à-dire dès mon alia de 85 jusqu'à ce qu'il nous quitte, je l'ai surtout connu en fait en Israël, mais aussi avec des témoignages que j'ai recueillis, que ses élèves ou ceux qui ont été liés à lui connaissent, à savoir des témoignages aussi d'autres personnes, et puis aussi certains témoignages de Manitou lui-même d'ailleurs. En fait, notre propos, ce sera d'essayer un peu avec des glanes, de décrire l'homme, Manitou, le maître, le sage et l'éducateur hors pair qu'il fut. Et je voulais juste dire en préambule, avant de vous dire les 3 points que je vais essayer de développer avec vous, je ne sais pas, en fait, j'ai entendu, bien sûr, avant de me rendre en Israël en 85, dans un certain mouvement personnel de... d'ouverture vis-à-vis du judaïsme, après avoir lu certains livres de Lévinas, etc., je parle des années, fin des années 70, j'ai assisté à certaines séances, historiques du colloque des intellectuels juifs de langue française, à la fin des années 70, et donc en fait j'avais entendu Manitou comme un orateur, mais je ne l'avais pas côtoyé, et c'est en fait, comme je vous le disais, à mon arrivée en Israël, et peut-être même un petit peu avant, que je l'ai rencontré. Et alors, je ne sais pas ce qui a présidé à notre rencontre, à notre première rencontre en face à face, lorsqu'en fait, 6 mois avant de faire mon alia, je l'ai rencontré à Mayanot, dans son fameux bureau de cette école, dont on dira en quelques mots, où se sont formés des centaines de jeunes Israéliens qui faisaient en fait pas forcément leur alia, qui venaient en Israël pour passer une année un peu sabbatique, et qui en fait, à 80%, restaient après en Israël, parce que ce qui s'y passait était tellement extraordinaire pour chacun d'eux. Donc je l'ai rencontré à Mayanot dans son bureau, c'était la première fois que j'étais en face à face avec lui, et je ne sais pas si cette petite phrase que j'ai entendue après de Manitou avait un quelconque rapport, puisque moi j'étais déjà journaliste en France, puisque j'ai fait mes débuts dans la presse française, à la fin des années 70, et je me souviens de ce mot de Manitou, c'est pas ce jour-là, il ne m'a pas raconté ça, mais il y avait quelque chose qui était dans l'air, et qui a trait à ce que je vais vous lire. Et voilà ce que disait Manitou, quand on lit la presse, quand on lit la Bible hébraïque, on a l'impression de lire les journaux, et quand on lit les journaux d'aujourd'hui, on a l'impression de lire la Bible, fin de citation. Alors je ne sais pas si, parce que j'étais en instance, si vous voulez, de m'ouvrir à une autre dimension, puisque en tant que journaliste, j'étais dans le réel politique, l'analyse géopolitique, etc. Quelque chose s'est passé. Toujours est-il que cette première rencontre avec donc ce grand maître et moi le petit journaliste qui faisait son alia, j'avais 34 ans à l'époque, ça a annoncé un certain chemin et ouvert un certain chemin pour moi et mon épouse, puisque nous l'avons rencontré lors d'un voyage d'études qui précédait notre alia. Et je dois vous dire que peut-être ça va vous étonner dans un tel colloque, mais que ce n'est pas seulement parce qu'on a échangé des idées au niveau du sionisme, de la nécessité de venir s'installer comme un jeune couple en Israël. On avait de jeunes enfants, deux petites filles à l'époque, et que c'était le moment pour venir, mais c'est pas tant ça. Ce qui m'a beaucoup impressionné, et je m'en suis rendu compte après, c'est que j'ai ressenti, en le rencontrant, donc face à face pour la première fois, j'ai ressenti une espèce de mélange assez étonnant, j'allais dire, qui ça va vous étonner aussi, qui m'a rappelé à la fois par la clarté des idées qui étaient échangées, mais aussi par l'espèce d'affection qu'il y avait en lui, qui m'a rappelé cet incroyable mélange de fermeté, de rigueur d'un côté, mais aussi de don de soi et d'affection, j'allais dire, qui était porté sur son visage, avec des moments de regard perçant et un peu dur, et des moments, au contraire, de grands sourires très francs et massifs, comme on pourrait dire. Eh bien, ça m'a rappelé l'immense tendresse que j'éprouvais en tant qu'enfant pour mes propres aïeux d'Afrique du Nord, en l'occurrence d'Algérie, et plus précisément de deux de mes arrières grands-pères, qui possédaient, comme beaucoup de cette génération, de ces générations qui nous ont précédés, à la fois cette fermeté qu'on pourrait appeler le din, cette qualité, ce comportement de rigueur qui était hérité de notre patriarche Yitzhak, et aussi cette affection du chesed d'Abraham, qui est donc le don et le don gratuit. Et en fait, le résultat, c'est ça qui est intéressant, c'est que, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est que dans ce mélange qui me rappelait donc ces deux deux arrière-grands-pères que j'avais eu le loisir de connaître enfant en Algérie, sur son visage, j'ai lu cette, évidemment, je dis ça maintenant, sur le moment, j'avais pas le code pour le dire, mais j'ai lu que ces deux valeurs étaient associées. C'est-à-dire qu'il y avait pas seulement cette fermeté d'un côté ou cette générosité de l'autre, mais il y avait de la vérité. Et justement, on sait que le troisième patriarche s'appelle Yaakov, il est de la qualité de Emet et de Tiferet, c'est-à-dire de la beauté et de l'authenticité. Et finalement, cette rencontre a été déterminante parce que j'ai retrouvé mes repères alors que je me retrouvais à Jérusalem pour seulement la deuxième fois de ma vie. Et ça a véritablement ouvert une voie parce qu'il y avait une continuité que j'avais senti décryptée sur le visage de Manitou. Alors, la méthode avec laquelle je vais procéder pendant ces quelques quarts d'heure, je vais un petit peu inspiré par un autre grand francophone israélien qui est le poète Claude Vigée, un poète francophone, Claude Vigée, qui a initié un genre qu'il a défini lui-même dans son œuvre qui s'appelle le Judan, par opposition au roman. Judan, ce serait la forme de la littérature propre aux Juifs revenant habiter la Judée, en opposition, entre guillemets, ce n'est pas seulement au niveau de la consonance que ça joue, mais par opposition au roman romain, entre guillemets, occidental, qui décrit des personnages dans un fatum, dans un destin qui est annoncé d'avance. En fait, le Judan, c'est cette alternance entre, j'allais dire, la rigueur de l'exposé, des moments d'analyse, des moments d'analyse extrêmement acerbe, et puis des témoignages que j'ai recueillis ici ou là, soit dans ma propre trajectoire, soit auprès de ceux qui avaient suivi son enseignement. Et donc je vais essayer de vous délivrer quelque chose d'un peu inhabituel, c'est un tissage, j'allais dire presque, comme tout à l'heure je disais, des glanes, entre tout d'abord les directions générales de son œuvre, sur lesquelles on va revenir, et puis les effets que sa parole a introduit, parce que comme vous le savez, Manitou a peu laissé d'écrit, il a écrit quelques textes ici ou là, mais il a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, et je voudrais à ce titre, avant de rentrer dans les trois points dont je vous ai annoncé, je voudrais vous dire ceci, puisque c'est un leitmotiv qui revient beaucoup, Torah écrite, Torah orale, parole et écrit. Et voilà ce que dit dans un cours qui d'ailleurs a été recueilli ici comme non daté, auquel je n'ai pas assisté, mais qui restitue vraiment sa position sur ce sujet. Il dit ceci en quelques mots. Il y a plus de sainteté. Encore un mot, Kedusha, on en parlera peut-être, mais c'est la traduction française obligée, parce qu'on n'a pas le temps, mais en fait la Kedusha, c'est, dira Manitou plus tard, l'unité des valeurs, c'est-à-dire l'aspect spécifique de la présence divine quand justement une valeur ne s'oppose pas à une autre, une qualité ne s'oppose pas à une autre. Le chesed et le din donnent le tiferet, et c'est l'unité des valeurs dans Yaakov. Alors il disait ceci, il y a plus de sainteté dans la Torah orale que dans la Torah écrite. La Torah écrite est celle que l'on ne comprend pas, puisque c'est précisément la Torah orale qui l'a fait comprendre. D'ailleurs, c'est la Torah orale qui décide de ce qui est Torah écrite, ce qu'on appelle Torah orale la Torah Shebealpé, qui sort de la bouche, si vous voulez, c'est elle qui décide quels sont les versets de la Torah chez Birtav, qui détermine le canon écrit, d'une certaine manière, de la Torah écrite. Et puis il y a toujours à propos de cette notion qui est essentielle chez Manitou, qui était un maître de l'oralité, bien plus qu'un maître de l'écrit, il y a cette citation à propos qui s'intitule « Les lectures de la Torah ». Chaque tribu d'Israël devrait avoir son Sefer Torah, car c'est le même texte pour tous, mais la lecture de ce même texte dépend du lecteur. En hébreu, on ne dit pas l'écriture, comme on dit en français, c'est-à-dire que ce qui est écrit, mais on appelle ça le mikra, c'est-à-dire la lecture. Il n'y a pas de lecture, il n'y a pas d'écriture, il n'y a qu'une lecture. Ce livre qui s'appelle la Torah ne dit que ce que le lecteur lit. Si le lecteur le lit dans l'hébreu des prophètes hébreux, c'est la Bible hébraïque. Si c'est un grec ou un slave qui lit, il en sort la religion orthodoxe. Si c'est un anglo-saxon, il en sort le protestantisme. Si c'est un latin, il en sort le catholicisme. Et si c'est un arabe, il en sort le Coran. Et si c'est un professeur d'université, il en sort des bêtises. Fin de citation. Bien. Et on reviendra sur l'humour de Manitou. Alors mon exposé va aborder trois points au travers justement d'un tissage entre des témoignages et des analyses. Les cinq directions qui ont convergé dans l'œuvre de Manitou, qu'on retrouve elles-mêmes tissées dans ce livre que je ne peux pas ne pas citer, qui est vraiment, pour ceux qui s'intéressent à la pensée de Léon Ashkenazi Manitou, La parole et l'écrit, les deux tomes qui ont été rassemblés par Marcel Goldman et qui sont vraiment le moyen de... Il a rassemblé en fait des conférences, des interventions, il les a ordonnées selon des thèmes. C'est un livre dont on ne peut pas se passer, qui est absolument passionnant, d'autant qu'il ne demande pas une lecture suivie linéaire. On peut prendre un thème, y revenir, approfondir, c'est quelque chose qu'on glane justement. Deuxième point que j'essaierai de... parcourir avec vous, ce sont plusieurs témoignages riches d'enseignements. Des témoignages, c'est-à-dire soit des choses auxquelles j'ai assisté moi-même, puisque j'ai pu travailler, j'ai eu le loisir, même connaissant Manitou sur le tard, j'ai eu le loisir de travailler dans certains domaines avec lui. Et puis troisièmement, on essaiera de déboucher sur justement une réflexion sur l'humour de Manitou. Un humour qui n'était pas un exercice de style ou simplement une forme pédagogique. C'est vrai qu'un cours passe mieux quand il y a de l'humour, mais qui était quelque chose de très profond, car le secret profond de son humour, c'était sa liberté non dogmatique avec la parole et l'interprétation de la Torah, qui est la marque des grands maîtres d'Israël. Alors, premier point, les cinq directions complémentaires, qui sont ébauchées ici, qui ont permis, si vous voulez, à Manitou de déployer toute sa grandeur, de forger sa pensée et de répandre son enseignement. Alors la première direction que je dégage, c'est qu'en se construisant lui-même, comme on l'a vu grâce à la biographie rapide mais très riche que vous avez faite, Antoine, en se construisant lui-même au fil des années et des décennies, ce qu'on pourrait appeler en termes, j'allais dire, psychosociologiques, le pour-soi, puisqu'on construit sa personnalité, à la fois comme enseignant, pédagogue, maître d'une Torah très vivante, Manitou a été aussi l'architecte de la reconstruction de la communauté juive de France sur les cendres de la Shoah, car, ça c'est donc la première direction qu'il faut repérer, sa démarche, tout comme son âme, nefesh, bon, vous savez qu'en plus en hébreu, il y a cinq mots pour dire l'âme, on ne va pas rentrer maintenant dans ce dédale, mais disons... De la même manière que son âme, comme sa démarche, sa personnalité, était avant tout ce qu'on appelle en hébreu une démarche, une âme clalite, c'est-à-dire tournée vers l'ensemble d'Israël, à savoir qu'il n'existe pas pour elle-même et qui, en fait, ne fonctionne que pour le bien de tout Israël. Il était dévolu au clal Israël, à la communauté d'Israël dans son ensemble, au peuple d'Israël. Dans cette lignée aussi, on peut dire que Manitou était aussi, et c'est une autre direction connexe de cette âme clalite, il était très tracassé parce qu'il avait une préoccupation dont on va parler avec le Rav Uri Cherki tout à l'heure, il était très tracassé parce que ce qu'il a appelé la recherche en fraternité. Et c'est d'ailleurs lié, quand on est tourné vers le peuple d'Israël et qu'on vit le pouls de ce peuple, ses malheurs, mais aussi ses espoirs, il est normal que la question sur laquelle on bute, c'est la recherche en fraternité, car le peuple d'Israël, a priori, qui a pour vocation l'unité, est un des peuples apparemment à la sociologie, à la société tellement divisée. Vous connaissez le dicton qui vaut ce qui vaut, quand il y a deux juifs, il y a au moins trois ou quatre opinions, etc. Et ça illustre quoi? Ça illustre, oui, le fait qu'on a une vocation à l'unité, mais qu'on est apparemment divisé. Donc une recherche en fraternité qui traverse, comme on va le voir tout à l'heure, tout le livre de Bereshit, de la Genèse, avec les épisodes bien connus de Caïn et Abel, Yitzhak, Ishmaël, Yaakov et Sav, Yosef et ses frères, et puis il y a aussi Ephraïm et Manaché, Peretz, Zera, David, Yonatan, bon, c'est pas un frère, mais c'est autre chose. Et en fait, toute l'histoire de la Genèse, c'est comment réussir la fraternité. Et ce n'est que lorsqu'on réussira la fraternité qu'on pourra devenir un peuple avec une mission historique. Alors, sur cette première direction, c'est comme si dans la conscience et la émouna, c'est-à-dire la confiance qu'il avait dans le destin d'Israël au sein d'un seul individu de si haute teneur, se trouvaient rassemblées la conscience et la confiance en Dieu, plénière et sans faille, qui l'habitait, à savoir que malgré tous ces déboires et déconvenus, il y a un destin de construction pour tout ce peuple. Deuxième remarque sur l'homme tout à fait complet qu'était Manitou, en devenant ce que je dirais décrire comme le défricheur et le grand pédagogue que l'on connaît sans pareil, eh bien il était aussi un moniteur et militant, comme vous l'avez dit, des éclaireurs israélites de France, militant non pas entendu au sens militaire du terme, mais comme justement capable d'avoir le don de pouvoir effacer en lui l'individuel et le réducteur au bénéfice de la collectivité d'Israël, et puis capable aussi d'affronter mille et une épreuves. Il était aussi devenu le véritable chef spirituel et éducatif de la communauté juive de France dans les années noires qui ont suivi la Shoah, en devenant l'enseignant et le pédagogue hors pair que l'on sait, à tel point que quand il a fait son alien en Israël, donc en 68, et qu'il, auparavant, comme vous l'avez dit, il avait rencontré le rav Tzvi Yehuda Kook, qui était le fils du grand rabbin Abraham Kook, premier grand rabbin d'Israël, le rav Tzvi l'avait qualifié, parce que Manitou évidemment est venu, s'est installé, mais il faisait souvent des allers-retours avec Paris pour expliquer ce que vous avez appelé sa conversion, c'est-à-dire comment aujourd'hui la mutation d'identité du juif de France devenu un hébreu en Israël devait être comprise et analysée. C'était vraiment à l'époque quelque chose, une pensée qui n'était pas du tout connue. Et le maître, le Rav Tzvi Yehuda, l'avait qualifié un jour, puisqu'il faisait beaucoup d'allers-retours, de prince de la Gola. Prince de l'exil. Et il était aussi un maître en Torah, un maître à penser. Et comme vous le disiez, pourquoi était-il un maître? Parce qu'il avait ses propres maîtres. C'était un héritage. On ne se fabrique pas une sagesse en kit, si j'ose dire, en accumulant des lectures seulement. Il était un orateur captivant, puisque, comme je le disais aussi, sa Torah était transmise oralement. Et ça, c'est ce qu'on trouve dans le livre de Marcel Goldman. Et il s'est transformé, et c'est ça, si vous voulez, cette deuxième direction, en devenant peu à peu un maître visionnaire de toute une génération, au départ d'Israéliens francophones, qui, pour la plupart des élèves de Mayanot, des promotions, c'était comme à Polytechnique, il y avait les années, c'était des promotions. Eh bien, les gens restaient, et alors, ça c'était donc dans les années 70, jusqu'au milieu des années 80, ça a duré 15 ans, et croyez-moi, bon, moi ça fait 30 ans que je suis en Israël, aujourd'hui, quand il y a des colloques ou des rencontres, il y a des gens dont on ne soupçonne pas qui sont passés par Mayanot, mais en tout cas en Israël, c'est pas des centaines, c'est des milliers d'Israéliens francophones d'aujourd'hui qui arrivent, non pas à l'âge d'or, mais disons, s'approchent de la soixantaine ou l'ont dépassé, qui ont en fait fait tout un chemin en Israël grâce aux enseignements de Manitou et qui en fait occupent dans la société israélienne différentes positions importantes, et c'est un autre propos sur la francophonie israélienne. Mais il a été vraiment le maître, le visionnaire, celui qui a cimenté l'adhésion nationale de cette alia française de l'époque et son intégration en Israël. Alors Manitou, pour finir sur ce point, a tracé une voie tout à fait unique qui a été entamée, comme on l'a dit tout à l'heure, avec résolution, mais aussi avec un souffle long, C'est ça qui est passionnant, d'un coureur de ski de fond, j'allais dire, un coureur de fond, à une époque de grand désarroi, qui était celle de la fin des années 40 en France. Car exactement comme notre patriarche Abraham, Manitou était au départ vraiment tout seul de l'autre côté du fleuve. On dit qu'Abraham à Ivry, Ivry, c'est du terme Ever, ça veut dire qu'il y avait Abraham d'un côté et la pensée politiquement correcte de l'autre, et qu'avec sa confiance, sa conscience, comme je disais aussi, ses propres maîtres presque secrets, sa Torah du Pardès, peut-être on dira ce que c'est, son émouna, c'est-à-dire sa confiance dans le destin d'Israël en tête, il était, selon le mot d'Albert Camus, que j'aime bien rappeler parce que Albert Camus vient aussi d'Algérie, et il y a quand même une conscience peut-être qui n'est pas tragique, il était solitaire et solidaire. C'est ce mot de Camus dans le livre Les Noces, avec évidemment une autre logique du côté de Camus, mais il y a chez Manitou d'un côté l'application de cette fameuse prophétie du prophète des nations Bilam, qui, envoyé par le roi Balak pour maudire Israël, à 7 reprises va être obligé, c'est-à-dire que dans sa bouche, les malédictions qu'il voulait sortir et proférer vont se transformer en bénédictions. Il va, entre autres, en regardant le camp d'Israël, dans l'une des premières d'ailleurs bénédictions, il va dire ceci: « Am levadad lishkon bagoyim lo yitrachev », ce peuple vit solitaire et il ne se mélange pas aux nations. C'est comme si le prophète des nations avait, lui, vu la vocation d'Israël, qui était d'un côté du fleuve, peut-être dans sa voie, et donc dans une certaine solitude, mais d'une solitude qui n'est pas un enfermement monastique, bien au contraire, qui est on est solitaire et solidaire. Je terminerai sur cette direction en vous disant que, justement, Manitou a concrétisé cette fameuse injonction au premier hébreu qui a été donnée par le maître du monde à Abraham, en lui disant « Lech lecha, lech lecha, mi artsecha, mi moladotecha, mi bet avicha », tu vas partir de ta terre natale, de ta patrie, ce qui est une autre notion que le paysage, c'est la patrie culturelle, et de la maison de ton père, de ta famille. Et tu iras rejoindre la terre que je t'indiquerai. En fait, ce qui est formidable, c'est qu'on ne peut pas comprendre la Torah en lisant une traduction, c'est que, qu'est-ce que c'est que cette formule, l'ech lecha, va, on dit en français, va pour toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, va pour toi? Bien, Rachid nous éclaire immédiatement sur place en disant, l'ech lecha, une tournure inhabituelle en hébreu, c'est le anotecha, ça veut dire non pas pour ton plaisir, on n'est pas dans cette dimension, mais pour ton développement personnel, pour ton accomplissement. Tu vas aller sur cette terre pour te construire toi-même et pour advenir à toi-même. Et c'est croire vraiment ce qu'a fait Manitou, parce que non seulement il a fait ça pour lui, mais il a permis à des centaines, voire des milliers, comme je disais tout à l'heure, de gens d'accéder à cette dimension. Troisième direction dans l'œuvre de Manitou, comme dialogueur et communicateur hors pair, Manitou savait si bien dialoguer, communiquer, comprendre les manques et les besoins de l'autre, léguer et transmettre, et tout ça en s'argoutant sur une Torah de vie, une Torah extrêmement vivante, avec laquelle, d'ailleurs, qu'il n'interprétait pas de manière jamais dogmatique, eh bien, il a pu devenir cet initiateur, je dirais plutôt ce passeur, comme le fut Abraham l'Hébreu, un catalyseur, un homme catalyseur très exigeant de dialogue, d'un dialogue franc, argumenté, sans concession avec les autres spiritualités et religions. Et ça, c'est un aspect de la personnalité du parcours de Manitou qui apparaît dans le livre La parole et l'écrit, mais qui est essentiel, c'est que Manitou, dès les années 50, dans la France si douloureusement remise de l'occupation et de la Shoah, Manitou a initié un dialogue sans concession, mais très profond, avec d'abord évidemment les chrétiens, au sein des amitiés judéo-chrétiennes, et aussi plus tard dans des colloques internationaux où il rencontrait des colloques théologiques en fait, où il rencontrait il y a des protestants, des catholiques, mais aussi des musulmans quelquefois et des bouddhistes. Et je voudrais à ce titre, et peut-être aussi on pourrait dire, et ça c'est important, peut-être tu en diras quelques mots, Auri, c'est que il a jeté à cette époque les jalons renouvelés d'une spiritualité noachide, c'est-à-dire qui s'adresse du dedans d'une Torah authentique aux autres peuples, pas simplement pour former des juifs qui connaîtraient une Torah vivante, mais aussi pour s'adresser une parole qui sort de Sion et qui a vocation à l'universel. Je voudrais à ce titre vous raconter une petite anecdote que j'ai moi-même vécue. Lorsque, après un colloque que nous avions encore organisé, parce que dans mes premières années en Israël, j'étais attaché de presse et public relations de l'Association des francophones d'Israël, l'UNIFAL. Eh bien, nous avons organisé un colloque en 87, je crois, qui était les premières rencontres Israël diaspora. Et toute l'organisation et toute la conception de cette rencontre s'était faite avec Manitou. On a donc fait venir des différentes personnalités de France, religieuses, culturelles, académiques, et on a discuté au cours de quatre thèmes, peu importe lesquels, sur la conversion, sur la place centrale des Israël, les échanges Israël diaspora, et on a filmé des vidéos. C'était un peu à l'époque, c'était la technique dont on disposait, et j'ai eu le loisir après ce colloque, à la demande de Manitou, d'organiser une tournée de conférences en France pour faire connaître dans différents lieux communautaires français, y compris au séminaire rabbinique, pour faire connaître les délibérés de ces rencontres. Eh bien, lors de ce voyage, et c'était pas prévu, nous avons été conviés à un dîner dans un restaurant cachère par un groupe de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ambassade chrétienne pour Israël, c'est-à-dire de gens qui soutiennent Israël, qui ne sont pas les évangélistes américains, c'est une autre catégorie, mais ce sont des Français de confession catholique qui, vouent une grande admiration à Israël et qui avaient donc invité Manitou. Il y avait une soixantaine de personnes dans une arrière-salle de restaurant cachère, Ruché, à faire un commentaire sur la paracha de la semaine, tout simplement. C'est-à-dire, à l'époque, ce jour-là, c'était Vaishlar, et comme par hasard, d'ailleurs, la rencontre de Esav, enfin de Yaakov, qui s'en va de chez son oncle Lavan, et qui rencontre son frère Esav, avec lequel il s'était brouillé 20 ans auparavant. Et alors, pourquoi je raconte ça? Je ne vais pas raconter le commentaire. Moi, j'étais là, j'accompagnais Manitou comme, attaché de presse, etc., organisateur. Et alors, on a assisté à une leçon qui a duré pas plus que 20 minutes, d'un maître d'Israël qui s'adressait à un auditoire, qui n'était pas d'ailleurs, c'était un auditoire de la moyenne d'âge assez jeune, peut-être, c'était des gens de 40-50 ans, et quelques-uns plus jeunes encore. Et j'étais stupide, et d'ailleurs j'ai raconté cet épisode dans l'un des livres qui a été fait après la disparition de Manitou, un livre de photos et de témoignages. Il y a 10 lignes que j'ai rédigées en racontant cette scène, j'appelle ça un silence de stupéfaction. Parce qu'après que Manitou ait parlé, et pour la première fois, il y avait des gens là, qui pour la première fois, qui connaissent peut-être le texte en français pour la plupart, ce morceau de la Torah, mais ils n'avaient jamais entendu un maître d'Israël interpréter la Torah, c'est-à-dire oralement. La Torah écrite, interprétée et racontée et approfondie par un maître d'Israël contemporain, et c'était pour eux un tel choc, mais dans l'admiration et la stupéfaction, que figurez-vous qu'après qu'il se soit tu, il y a eu au moins un silence qui a duré au moins 3 minutes. Et 3 minutes dans une assemblée de 60 à 65 personnes, c'est énorme. Et c'était un silence de stupéfaction. Je voudrais évoquer aussi, dans le cadre de cette immense envergure du Rav Manitou, le rôle qu'il a joué, sans rentrer dans le détail, lors d'un épisode diplomatique extrêmement important, à la fin des années 80, alors qu'Israël avait été, au niveau de la scène internationale, complètement délaissé par les pays africains après la guerre de Kippour. Il y a eu le choc pétrolier et Israël avait complètement été, puisque à l'ONU, il y avait le bloc arabe qui mobilisait tous les pays de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde pour boycotter Israël. Il y a eu donc la rupture des relations diplomatiques entre tous les pays africains ont rompu leurs relations diplomatiques avec Israël pendant cette période. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez comment quelquefois la spiritualité ouvre et débouche sur le géopolitique. C'est que dans un colloque théologique, à la fin des années 70, Manitou a rencontré le président du Cameroun, qui s'appelle Blia, et Ils ont parlé théologie. Le président du Cameroun, qui était un catholique fervent, a été stupéfait lui aussi par les échanges qu'il avait avec Manitou, et un peu, comme dans le livre du Kuzari, où vous savez, le roi des Khazars qui veut, pour son royaume, s'éduquer pour au niveau de la spiritualité, mais la spiritualité c'est important quand ça se traduit dans la vie sociétaire, eh bien qui voulait entendre ce que disait un rabbin, ce que disait un prêtre catholique et aussi un imam musulman pour essayer de savoir quelle direction donner à la gestion des affaires du pays. Eh bien comme dans ce Kuzari, Manitou a, sur invitation du président Biya, invitation privée, s'est rendu des dizaines de fois au Cameroun pendant plusieurs années pour avoir un échange de haut niveau avec ce président du Cameroun. Et tout cela, chers amis, a débouché de manière, peut-être que c'est une anecdote, en 89, sur le rétablissement des relations diplomatiques entre Israël et le Cameroun, qui était le premier pays africain à renouer avec Israël après la rupture du choc pétrolier. Autre anecdote connexe qui est importante, Manitou, c'est lui qui nous l'a raconté puisqu'il était le seul à être témoin, à part évidemment les gens qui étaient dans l'avion, quand il était invité par les membres du gouvernement israélien, c'est le gouvernement d'union à l'époque, il y avait alternance entre Yitzhak Shamir et Shimon Peres, quand il était de la délégation officielle qui est partie au Cameroun pour ouvrir cette ambassade, à la demande d'Yitzhak Shamir, Manitou a raconté, en fait, on lui a demandé de raconter comment ça s'était passé, en fait, il en a profité pour donner des éléments qui aussi ont provoqué dans l'avion de la délégation israélienne une stupéfaction, parce que m'a confié Yitzhak Shamir quelques années après, c'était la première fois qu'il entendait, comme il disait dans son langage, un religieux dire des choses d'une dimension qu'il n'avait jamais entendue. C'était pas un orthodoxe, c'était pas quelqu'un qui parlait d'une chapelle, il parlait du destin d'Israël et du rôle qu'on pouvait y jouer. Et donc il a donné une magistrale leçon de Torah sous des aspects de géopolitique en international aux membres donc de cette délégation. La quatrième dimension, direction dans l'œuvre de Manitou, c'est un enseignement qui rejoint d'ailleurs souvent celui d'Emmanuel Levinas, c'est que ça concerne le rapport entre le particulier et l'universel qui doivent s'articuler, c'est-à-dire qu'en fait Manitou a expliqué, et il l'a pas expliqué que théoriquement, il l'a illustré dans son itinéraire, que quand Israël assume sa singularité, ce qui est préférable au terme de particularité, c'est pas un particularisme. Israël est singulier, c'est-à-dire il est seul d'un côté avec sa structure. Quand Israël assume cette solitude dans la connaissance, eh bien c'est à ce moment-là qu'il peut dialoguer avec les nations. C'est-à-dire que ce n'est pas Israël ou la sagesse d'Israël qui est un sous-ensemble de l'universel, c'est que quand Israël assume sa singularité, il inclut forcément, où il implique forcément l'universel. Et Manitou, justement, dans son itinéraire, d'après moi, a pu appliquer et concrétiser dans son œuvre même cette règle d'or, cette spécificité juive, voulant que, et il l'a fait avec le sourire et avec beaucoup de générosité, voulant que c'est, si vous voulez, quand on intègre la chorma, c'est-à-dire la connaissance d'Israël, qu'on peut parler avec les nations. Autrement, qu'est-ce qu'on a à dire si on n'a pas, une tête bien faite et pas seulement une tête bien pleine? C'est que lorsque on intègre cette sagesse, qu'on peut parler avec les nations, c'est-à-dire que Israël parle et articule la langue de l'universel, parle et se fait comprendre des nations en donnant un sens profond et en proposant un décodage ontologique et profondément humain à ce que Manitou appelait justement le naturel froid et indifférencié des lois de ce monde. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la subjectivité humaine mais ancrée dans une sagesse, le monde est froid, indifférent et fonctionne selon la Midat Hadin, c'est-à-dire selon des rouages fixés par le maître du monde qui échappent au contrôle de l'homme. Donc la singularité d'Israël inclut l'universel humain. Et c'est là qu'on arrive à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que dans la définition qu'a donnée, qui était pour moi d'ailleurs un immense enseignement, la Kedusha, qu'on traduit par sainteté, c'est un mot qui est, excusez-moi, mais une trahison, comme beaucoup de traductions de l'hébreu vers le français. La Kedusha, disait-il, vers laquelle doit tendre le peuple d'Israël dans les rapports avec son Dieu, mais aussi que chaque individu doit se parfaire, se construire dans ce chemin-là, eh bien c'est justement l'unité des valeurs. C'est-à-dire qu'à l'opposé de l'antagonisme de telle ou telle qualité, de valeurs marquées par, non pas l'impureté, mais c'est un mot affreux, mais si vous voulez, dès qu'il y a une valeur, une qualité qui se prend pour le centre du monde, même une valeur louable, on ne parle pas des défauts, mais une qualité qui se prend pour le moteur, ça se transforme en impérialisme, soit individuel, soit historique. Et Manitou disait que justement, dans les rapports de chaque individu avec son créateur, comme dans les rapports du peuple d'Israël avec lui, avec son créateur au niveau historique, là, chaque créature, individuelle ou collective, doit tendre vers cette unité des valeurs et ne pas privilégier une valeur par rapport à une autre. Parce que finalement, je vais vous dire, c'est en termes même de comment on appelle ça, pas holologique, j'ai plus le mot holistique. Eh bien, c'est si vous voulez, en fait, qu'est-ce que c'est quand il n'y a pas l'unité des valeurs, il y a un manque d'énergie vitale. Et il n'y a énergie vitale plénière et plénitude que dans l'unité des valeurs. Et je crois que, à preuve, c'est ce que vous disiez Antoine, c'est que, et c'est ce qui m'a stupéfait lorsque j'ai assisté de manière plus régulière à des cours en Israël, c'est qu'un cours de Manitou pouvait apporter énormément de choses à un érudit de Torah qui avait fait un certain parcours, comme à quelqu'un qui venait l'écouter pour la première fois. C'est-à-dire que c'était un enseignement qui n'était pas adapté à un auditoire, c'était un enseignement général. Cinquième et dernière direction de moteur de cette grande Neshama Klalit qu'était Manitou, c'était son obsession éthique consistant à penser que l'homme est le juif en tant qu'une certaine manière d'être homme, parce que qui est le juif qui redevient hébreu? C'est pas, si vous voulez, c'est une certaine, être juif, disait-il, c'était une certaine manière d'être homme. Vous voyez que c'est à la fois très très modeste et très ambitieux. Eh bien, la direction qu'il a lui-même impulsé, et ça retrouve, et on retrouve ça dans beaucoup de Dvar Torah, d'explications de Torah, c'est que tout homme, juif ou non juif, doit mériter l'être qu'il a reçu de Dieu, mériter le fait d'avoir été créé et d'avoir reçu le don formidable de la vie octroyé par le Créateur. Or, c'est bien ce qu'il a pu réaliser, lui, Manitou à Ivry, le juif redevenu israélien à hébreu, quand il faisait souvent référence aux exils successifs, ceux d'Afrique du Nord, puis de France, vécus par une bonne partie de la génération qui ont traversé les terres francophones. Je voudrais d'ailleurs vous raconter une autre anecdote que Manitou nous a racontée lui-même dans un cours qui... cette anecdote, j'en parle souvent lorsque je rencontre ces derniers temps des communautés pour parler de la situation en France et de ce qui se passe en Israël. Manitou nous a raconté un jour de manière très sobre que, vous savez, il a fait partie des soldats, comme vous aviez dit, de l'armée française dans la Légion et dans ce qu'on appelait après la coloniale. Il était aumônier rabbin, aumônier militaire, d'ailleurs déjà ce mot c'est évidemment quelque chose. Et il a participé au débarquement de Provence en 44, en hiver 44 à La Ciotat, et il a suivi son unité qui a entre autres libéré l'Alsace et le camp de Struthof. Et le camp, un camp qui était un camp moins connu que les autres, mais il y a eu beaucoup d'horreurs qui ont été faites là-bas. Et Manitou raconte la chose suivante. Quand, sur le bateau, avant de débarquer, ils étaient à bord d'un destroyer avant le débarquement. Eh bien, lorsque les côtes françaises sont apparues, le capitaine a fait monter tous les soldats sur le pont pour saluer, parce que c'était l'armée d'Afrique, n'est-ce pas, qui avait été exilée, etc., et qui revenait pour la première fois en France pour combattre et pour chasser les Allemands. Donc, il y avait vraiment une atmosphère patriotique. Le capitaine a fait monter tout le monde sur le pont et a fait un misdar en hébreu, c'est-à-dire une prise d'armes, en fait, devant les côtes françaises et...
Une revue,
voilà. Et il raconte ceci, c'est que, bon, ils étaient plusieurs juifs, évidemment, puisqu'il y avait toutes sortes d'unités, dont la coloniale dont il faisait partie. Et il raconte que... Il a vu dans le regard de tous les Français, de tous les officiers et de tous les soldats français qui étaient là, beaucoup pleuraient d'émotion. Et il raconte que les Juifs étaient très sérieux, prenaient ça au sérieux. Ils étaient eux-mêmes, je dirais, au garde à vous et respectueux. Mais il a dit, la fois où j'ai pleuré, c'était pas ce jour-là. C'est quand, en 68, on a fait notre alliance avec mon épouse et qu'on a approché Haïfa et qu'on a vu de loin les côtes de Haïfa. Ce jour-là, j'ai pleuré et je me suis rappelé pourquoi j'avais pas pleuré en 44. Signe des temps, pour terminer, si vous voulez, des temps bien concrets que nous vivons aujourd'hui dans un certain délire médiatique anti-israélien, je voudrais vous livrer il y a ce qu'a dit Manitou il y a 20 ans, juste avant de nous quitter, à propos déjà d'un climat qui était celui d'Oslo, où les choses étaient difficiles et en Israël et au niveau, pas seulement médiatique, mais dans une certaine lecture très mal faite par beaucoup de médias, il avait dit ceci. Le pire des Amalek d'aujourd'hui, Amalek celui qui veut détruire Israël, non pas parce qu'il a des objectifs géopolitiques, mais parce qu'il veut casser le lien d'Israël avec le Créateur. Le pire des Amalek d'aujourd'hui déteste et haït davantage l'Israélien, c'est-à-dire le Juif redevenu hébreu sur sa terre et dans son État souverain, bien plus que le petit Juif exilique du ghetto synagogal ou communautaire qui tente vainement de se fondre dans le paysage tourmenté de la Galoute. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, Amalek s'est tellement étendu, si j'ose dire, que même ce petit Juif exilique du ghetto synagogal, il est lui aussi visé, mais ça c'est un autre sujet. Et c'est pour cela que l'ancien prince de la Galoute qu'il était dans les années 50 en France, Manitou, a pu devenir donc a pu devenir le maître qu'il était. Il s'est pleinement épanoui à Jérusalem. Il est venu vraiment le prince, comme l'avait dit le Rav Kook, Tzvi Yehuda, le prince de la Torah bien vivante des Rêtes Israël. Alors, deuxième partie, mais là ce sera une série de témoignages très rapides. Je vais vous donner des glanes, mais très ponctuelles, pour vous dire que même au détour d'une phrase, au détour d'un cours, tout d'un coup Manitou surgissait avec une, non pas des formules, mais avec une formulation d'un enseignement qui était percutant et qui était, si vous voulez, qui permettait de saisir des notions pas seulement historiques générales, mais biographiques pour chacun d'entre nous. Par exemple, il revenait souvent sur un des enseignements de l'un de ses maîtres, Jacob Gordin. Qu'il a connu à la libération, à Paris après la victoire, et qui disait ceci. Et là, je pense que c'est un enseignement d'une richesse inouïe. D'ailleurs, Manitou a fait lui-même son autocritique. Il a expliqué pourquoi il n'avait pas compris cet enseignement. Jacob Gordin expliquait aux élèves qu'il avait, dont Manitou, qu'on avait connu pendant des siècles en France et en Europe l'antisémitisme chrétien, mais que on allait voir maintenant que le peuple d'Israël était de retour sur sa terre, et on était donc en 45-46, on était à 2 années de la création de l'État d'Israël. Jacob Gordin a mis en garde son auditoire en disant « Nous allons assister au déploiement d'un antisémitisme, antisionisme, antijudaïsme musulman qui va être pire encore que ce qu'on a connu en terre chrétienne. » Or Manitou s'est offusqué, il n'a pas compris cet enseignement, il lui-même le raconte. Pourquoi ? Parce que lui-même, donc, venant d'Algérie, ayant vu les horreurs de la guerre au camp du Stutthof, ayant vu les traces de la Shoah, des traces malheureusement terrifiantes, eh bien, il ne comprenait pas. Il y avait certes le pogrom de Constantine, il y avait de temps en temps des moments de colère en Algérie et en Afrique du Nord contre les Juifs, mais ce n'était pas comparable. Et il a reconnu, bien des années après s'être installé en Israël, que cet enseignement de Jacob Gordin était pertinent, parce que après avoir donc passé du temps et avoir vu les événements évoluer autour de lui, en fait, il a bien vu que ce à quoi on assiste aujourd'hui, que pas seulement, si vous voulez, tous les poncifs, les préjugés de l'antisémitisme chrétien ont été exportés dans le monde arabe. Vous savez qu'à Ramallah, comme au Caire, comme dans toute la capitale arabe, les deux best-sellers historiques les plus vendus, c'est Mein Kampf et le protocole des sages de Sion, en arabe. Donc ça traduit cet enseignement très bien, mais surtout parce qu'aujourd'hui, avec le retour en forme de tsunami d'un certain nombre de centaines de milliers de réfugiés qui viennent entre autres, pas seulement du Moyen-Orient, mais aussi du Maghreb et du Mashrek, eh bien, il y a, si vous voulez, la France, l'Europe a exporté son antisémitisme chrétien, ou du moins le leadership musulman a puisé dans ce puits intarissable, mais en maintenant, avec le retour ou le retour ou l'arrivée des réfugiés venant de ces régions, à nouveau, c'est dans l'espace européen et français en l'occurrence que se déploie le grand cadeau qu'a fait l'Europe au monde musulman en lui enseignant tous ces poncifs insupportables. Deuxième témoignage, Manitou m'a accordé, j'étais rédacteur en chef du Jerusalem Post en français que j'ai dirigé pendant 8 ans, juste au moment de la crise du Golfe, en 90, ça a commencé, et j'ai dirigé 7 ans et demi ce journal, donc on a traversé la fameuse guerre du Golfe et toute la période d'Oslo. Manitou m'accorde une interview en pleine guerre du Golfe, alors qu'on vivait dans les pièces étanches avec les masques à gaz, etc. Et bon, je lui pose une question sur à la fin de l'interview, un peu personnelle, en lui disant, vous qui avez traversé toutes les époques, vous avez traversé, comment vous vivez cette fameuse image qu'on avait vue justement 2 jours avant, je ne sais pas si vous en souvenez, au Théâtre de Jérusalem, le violoniste Isaac Stern, qui était en face d'un auditoire. Tout d'un coup, l'alerte sonne et Isaac Stern continue son morceau et la caméra le monte de dos avec son violon devant un parterre. On voyait le public comme des têtes de souris puisque tout le monde avait mis son masque à gaz. Et je lui dis, alors cette image, comment vous la commentez? Il me dit, c'est une nouvelle page de l'histoire d'Israël qui nous montre bien que tout est possible, dans le bien comme dans la destruction. Fin de citation. J'ai eu le plaisir, avant-dernier témoignage, de travailler, comme je vous l'ai dit, avec Manitou dans les coulisses, c'est-à-dire de l'accompagner dans la vie quotidienne de tournées de conférences. Et ce qui m'a stupéfait, c'était justement l'impression première que j'avais eue en le rencontrant, comme je vous l'ai dit, en 84, c'est que Manitou était un mélange d'extrême rigueur. Il était très ponctuel. Par exemple, il ne mangeait jamais un jour. Il m'a donné une leçon, moi qui suis devenu sur le tard un conférencier qui essaye d'être professionnel. Manitou m'a dit, on ne mange jamais avant la conférence. Soit on parle, soit on mange. Et c'était la rigueur. C'était de la rigueur. C'est ce que vous disent les comédiens, d'ailleurs. Les comédiens de théâtre l'expliquent bien. Et c'était de la rigueur, mais après la conférence, il était impossible. Même quand on finissait à 11h, 11h30, qu'on soit à Nice, Paris ou Lyon, il était impossible de ne pas aller manger quelque chose. Il fallait trouver en plus un restaurant cachère ou qu'on lui amène un plat. Et là, c'était indispensable. Et alors, à ce moment-là, Manitou se détendait et retrouvait son sourire. Je voudrais vous dire une avant-dernière anecdote. La soirée de ses 70 ans à Jérusalem, au Théâtre de Jérusalem, on lui avait fait ses amis et son entourage lui avaient dit, tu sais, on va t'inviter au restaurant du théâtre. Et bon, alors avec des amis, alors bon, ils lui ont fait une immense surprise, c'est qu'après la petite collation qu'on lui a servie dans le restaurant du théâtre, on dit, ben tu sais, on a un rendez-vous là, il faut monter dans la salle, il monte dans la salle par une petite porte, il débouche sur le grand auditorium du Théâtre de Jérusalem, il y avait plus de 1000 personnes dans la salle, et il y avait Emmanuel Halperin, journaliste de la télévision israélienne, journaliste francophone de la télévision israélienne, qui a commencé une soirée radioscopie avec Manitou. Donc, je ne vais pas vous raconter, c'est une vidéo qui existe, qui est passionnante, que vous pouvez vous procurer, mais je vous donnerai la réponse de Manitou à l'une des questions les plus originales posées par Emmanuel Halperin. Bon, il y a eu des chants, il y a eu des amis qui sont venus, des surprises, vous connaissez ce genre de soirée. Eh bien, on a à un moment, Halperin nous dit, mais puisqu'on était en 93, c'était la grande vague d'Alia russe et d'Alia éthiopienne, et pose la question très simple à Manitou. Manitou, comment vous, qui avez connu 2 exils, l'Algérie et la France, et qui maintenant tracez un sillon à Sion, comment vous voyez cette Alia, ce qui se passe autour de nous, des milliers, des centaines de milliers de Russes qui viennent, et aussi les Éthiopiens qui viennent d'une autre culture tellement... Et quelle est l'attitude qu'il faut avoir? Est-ce qu'il faut demander des explications et puis être rigoureux en essayant de trier ceux qui parmi eux pourraient ne pas être juifs? Enfin, tout ce débat un peu orthodoxe qu'on vous connaît en Israël, tout le monde n'est pas cachère parmi les nouveaux immigrants. Ou alors, quelle attitude avoir? Manitou lui répond en quelques mots. Je paraphrase son discours. D'abord, la chose qu'il faut faire, c'est une grande fête. C'est une fête parce que ces immigrants qui viennent de si loin, pas seulement en distance, mais d'une histoire si lointaine, si difficile, c'est, il faut célébrer leur arrivée. Et il raconte lui-même l'anecdote que de retour d'un des séminaires qu'il donnait au centre Rachi à Paris, l'ex-centre Rachi, il s'est retrouvé un jour sur le tarmac de Ben Gurion, en descendant, il s'est trouvé devant deux avions, qui délivrait des immigrants, des centaines d'immigrants russes, et un avion qui venait d'Éthiopie. Et il dit, et il a pu, avec ses laissés-passer, il a accompagné par curiosité les colonnes donc de nouveaux immigrants qui rentraient dans un hangar affrété par l'agent juive. Et dans ce hangar, comme on était en plus, il raconte cette anecdote qui s'est passée en 91, c'était l'avant-dernier jour de la guerre du Golfe, on donnait aux immigrants en question leur carte d'identité israélienne, un masque à gaz et un masque de Pourim, parce que c'était Pourim dans deux jours. Et ils disent ça, j'ai compris qu'est-ce que c'est le Messie d'Israël, c'est pas quelque chose de métaphysique. Dans chacun de ces immigrants qui mettaient le pied sur la terre d'Israël ce jour-là, il y avait une parcelle du Messie d'Israël. Et enfin, je ne pourrais pas ne pas, avant de conclure sur l'humour de Manitou, je ne pourrais pas ne pas vous raconter cette réplique extraordinaire, pas une réplique, l'explication qu'un jour Manitou donnait. Il a rencontré à la fin de sa vie dans les colloques théologiques à deux reprises le Dalai Lama. Ils ont beaucoup échangé. Et Manitou nous a raconté qu'une fois le Dalai Lama, voyant de quelle pertinence il avait, s'est approché de lui en off the record, c'est-à-dire en aparté, pour lui dire, écoutez Manitou, puisqu'on va pas se revoir, on se voit rarement, expliquez-moi le secret de la pérennité d'Israël, le secret du retour d'Israël. Parce que, dit-il, je suis pas seulement le guide spirituel, entre autres, d'un certain nombre, évidemment, de la spiritualité bouddhiste, mais je suis un leader national du Tibet, qui est occupé depuis de nombreuses décennies par la Chine, et quand j'essaye dans certaines réunions d'expliquer aux jeunes, qui sont d'ailleurs souvent des moines, que on fait pas seulement de la méditation, etc., de la spiritualité, mais on a comme but, nous, en tant que peuple tibétain, de revenir sur notre terre, eh ben ils n'y croient pas. C'est-à-dire que, or, dit-il à Manitou, comment ? Expliquez-moi comment, moi, après 7 ou 8 décennies, 70 ou 80 ans d'occupation chinoise, en fait, mes jeunes n'y croient plus, mais comment vous, peuple d'Israël, vous avez été exilé 19 siècles en dehors de votre terre, et non seulement vous y avez cru, mais vous êtes revenu et vous avez fait ce que vous avez fait, une success story démographique, économique, etc. C'est, expliquez-moi le secret. Alors Manitou lui répond, avec son humour habituel, il lui dit, je vais te répondre à trois niveaux, comme les trois pieds d'une table auxquels il manque un quatrième pied. Et les trois premiers pieds de cette table, ce seront des propos de rabbin, parce que je suis rabbin. Alors voilà, les secrets nécessaires mais pas suffisants qui nous ont permis de traverser l'histoire et réussir le retour, c'est quoi? C'est d'abord, évidemment, le fait que le peuple juif a gardé le Shabbat. Non pas parce que le Shabbat, c'est une prescription religieuse, mais parce que, comme le disait Abraham Heschel, si tu gardes le Shabbat, à l'échelle familiale, collective, le Shabbat te garde. C'est-à-dire un temps où on se ressource à l'essentiel. Et on n'est pas pris dans le tourbillon de l'accessoire. Première réponse, très pieuse. Deuxième réponse, très pieuse. Ce qui nous a permis de traverser l'histoire, c'est la cache-route. Les prescriptions alimentaires. Non pas par, encore une fois, parce que on applique une parole divine seulement, mais parce que nous, comme le dit l'hébreu lui-même, ce que l'on mange, c'est ce que l'on est. Le terme qui signifie en hébreu la nourriture, ochel, c'est les mêmes lettres que akol. C'est-à-dire, on est ce que l'on mange. Ça veut dire quoi en termes un peu plus modernes? Ça veut dire que non, ce n'est pas une différenciation, une démarcation d'égoïme, comme on dit certains avec leur vocabulaire, mais c'est une certaine manière d'être homme dans le rapport à la nature. Le goût et la saveur des choses, mais dans une organisation. Troisième chose encore plus rabbinique et très religieuse, ça pourrait être presque un prêche rabbinique, cette explication, c'est de dire que nous avons traversé l'histoire grâce à ce qu'on appelle les lois de la pureté familiale, à savoir qu'un couple juif authentique ne s'unit et ne procrée que dans certains moments, parce qu'il y a les lois de ce qu'on appelle de l'anida, qui sont essentielles pour avoir une descendance d'Israël. Et tout ça, il lui dit, tu vois, je t'ai fait un cours très religieux, mais tout ce que je viens de te dire, si nous n'avions eu que ces trois commandements, Enfin, ces trois commandements, ces trois obligations, qui bien sûr supposent l'étude, parce que pour faire ces trois choses, le Shabbat, la pureté familiale et la kashrout, il faut les étudier, autrement on tombe dans une orthopraxie qui n'a pas de sens. Même peut-être si au départ on peut faire des choses, et puis après on les comprend, on a sev et nishma, mais encore que même cette phrase, elle ne veut pas exactement dire ça. En tout cas, Manitou lui dit, voilà, j'ai été très ecclésiastique en t'expliquant ça, mais si nous n'avions fait que ça, eh bien, nous avons fait le nécessaire, mais ce n'était pas suffisant, parce que nous aurions été finalement peut-être une secte religieuse qui a des rapports bien précis avec son Dieu et qui a une fidélité finalement religieuse avec son Dieu, mais ça n'aurait pas répondu à ta question qui était quel est le secret du retour. Eh bien le secret, c'est le quatrième pied de cette chaise qui n'est pas un positionnement de mitzvot seulement. Donc les mitzvot sont indispensables, incontournables, parce que sans elles on n'est plus Israël, comme vous le disiez, mais le quatrième pied de la chaise, c'est le fait que sous toutes les latitudes, à toutes les époques, pendant des siècles, au milieu des pogroms et des ghettos, Israël, le soir de Pessah, lisait dans la Haggadah, les Shana Abba, Beyerosholaim, non pas comme une nostalgie, une espèce de vagala, mais au contraire comme comme une sorte de moment scanner, où le soir de Pessah, tout d'un coup s'inversait la logique, voulant que habitué à l'exil, habitué à si vous voulez aux forces de l'endroit dans lequel les Juifs se trouvaient, ils avaient pris ce qui était anormal, c'est-à-dire leur position d'exil, pour la normalité. Et bien le soir de Pessah, en disant les Shana Abba Beyerosholaim, on se donne une direction, on sait d'où on vient et on sait où on va, et c'est pour ça que nous sommes revenus à Jérusalem. Et pour finir, quelques glanes concernant l'humour, et je sais qu'il me reste très peu de temps, mais je vais vous lire quand même quelques passages, parce qu'il vaut mieux, évidemment, c'est toujours sur le rire de la sagesse qu'il faut terminer. J'ai ici un livre que je vous conseille aussi de vous procurer, à part La parole et l'écrit. Peut-être que ce livre, il est peut-être pas perceptible tout de suite. Ça s'appelle Étincelle de Manitou. Ça vient de paraître aux éditions Elkana à Jérusalem. Vous pouvez trouver sur Google, je pense, et sur Amazon. Et en fait, il s'agit d'un des élèves de Manitou, Ephraim Herrera, qui est un spécialiste de l'islam, qui a suivi ses cours et qui a restitué donc des étincelles, c'est-à-dire des moments de cours. C'est comme un index classé selon l'alphabétique, avec des notions. Et il délivre des moments, des explications de cours. Et à l'introduction de ce livre, je ne peux pas résister à la, comment dirais-je, aux quelques lignes qu'a écrit l'éditeur Alain Michel, qui était à la fois un ami, une relation, qui était un des élèves de Manitou, qui a écrit ceci à propos de l'humour de Manitou. Manitou, dit-il, était maître dans l'univers de l'humour parce qu'il était le maître du Midrash. Il s'inscrivait en droite ligne du Maharal de Prague, qui avait entrepris de réhabiliter le Midrash. Midrash, c'est le commentaire, comme on dit en termes d'octe, homélitique, c'est-à-dire c'est le commentaire du drash au-dessus de l'allusion, c'est, si vous voulez, une certaine manière de lire la Torah, notamment la Haggadah, c'est-à-dire l'interprétation profonde. Le Maharal de Prague, qui avait entrepris de réhabiliter le Midrash en montrant que c'est par ce mode de lecture biblique que le judaïsme s'est constitué et institué et continue à se transmettre de la manière la plus authentique et la plus fidèle. Le Midrash, avec son humour sérieux, métaphysique, exclut toute possibilité d'atteindre tout sens ultime. Le maître du Midrash, qui était Manitou, inscrivait toujours l'humour dans son enseignement parce qu'il savait qu'on ne peut accéder qu'ainsi à une signification valable pour la situation à partir de laquelle on sollicite le texte biblique. La qualité de sérieux se trouvait dans la signification qu'il proposait du texte, celle de l'humour se trouvait dans la distance qu'il prenait face au texte biblique et face à la lecture qu'il en faisait. Les parenthèses humoristiques qu'il introduisait dans ses développements interprétatifs, ses jeux de mots accompagnés de son éclat de rire, nous libéraient du tragique, du fondamentalisme, de l'exclusivisme et du fanatisme. Fin de citation. Et pour être concret, je vais vous lire quelques glanes, très courtes, rassurez-vous, que j'ai trouvé moi-même en découvrant ce livre, qui sont assez extraordinaires. Et à propos d'une réflexion sur Abraham et la bracha, la bénédiction, bon, une réflexion très haute, etc., tout d'un coup, il prend une diagonale et il dit ceci. Cela me rappelle une histoire de Yeshiva, l'Institut Talmudique. Deux étudiants de Yeshiva discutent toute la nuit. Dieu existe-t-il ou n'existe-t-il pas? Ils arrivent au matin fatigués et ayant malgré tout décidé que Dieu n'existait pas. L'un demande alors à l'autre, « Shlomo, apporte-moi un verre d'eau, s'il te plaît, j'ai soif. » L'ayant reçu, il dit avec ferveur, « Baruch atah Hashem », c'est-à-dire il fait la bracha avant de boire. Shlomo, ça va, qui lui dit son copain, « Ça va pas, on vient de décider que Dieu n'existait pas. » Alors l'autre, il lui dit, « Mais ça n'a rien à voir, tout ça c'est des idées. Et tu veux m'empêcher de dire une bracha quand je bois un verre d'eau ?» Et il conclut en disant, « Les modernes, en s'intellectualisant, se sont finalement déspiritualisés. » Fin de citation. Autre glane d'humour, plus courte encore, c'est à propos de l'athéisme et de l'ignorance. En Russie, au temps de la Haskala, c'est-à-dire de la... comment on appelle ça, le temps des Lumières, le temps de l'émancipation, un jeune étudiant avait appris qu'il y avait dans une petite ville juive un grand maître d'athéisme. Ayant décidé de devenir son disciple, il arrive dans la petite ville et demande où habite le rave un tel. On lui indique où il habite, il frappe à la porte et une femme lui ouvre, habillée à la juive, avec les cheveux couverts, décente, etc. Et le jeune homme se dit, bizarre ces athées-là. Il demande, c'est bien ici qu'habite le rave un tel? La femme lui répond, oui, c'est ici, je suis sa femme. Que désirez-vous? Le voir. Mais il n'est pas là. Où est-il? Où veux-tu qu'il soit? Il est à la synagogue. Le jeune homme se dit que ces athées sont très bizarres. Il va quand même à la synagogue. Au fond de la synagogue, il voit un vieillard avec une calotte bien plus volumineuse que la mienne, la mienne de Manitou. Une barbe, je vous dis que ça, habillé à la juive, en train d'étudier la Guémara, le Talmud. Interloqué, le jeune étudiant s'approche et demande, « Vous êtes bien Rav un tel, connu comme philosophe athée ?»« Oui, 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 c'est bien moi. » Je ne comprends pas. Vous êtes athée et je suis d'ailleurs venu pour apprendre l'athéisme juif avec vous. Et je vous trouve à la synagogue en train d'étudier. Le vieillard demande, dis-moi, qu'as-tu déjà appris? Est-ce que tu connais la Gemara, la Mishnah, la Torah écrite? Le jeune lui répond, la Gemara? Mais je suis athée, je n'apprends pas la Gemara. Et la Mishnah, la Bible au moins? Non, je suis athée. Le vieillard lui dit, mon fils, tu n'es pas athée, tu es ignorant. Voilà, vous connaissez cette. Alors, il y a aussi une autre, beaucoup plus courte, très allusive, parce que ce qui est justement lié au monde de l'étude. Celui qui a inventé l'aspirine a fait plus de bien à l'humanité que des millions de moralistes qui ont parlé du bien et du mal, parce que si l'on n'a pas de tête, on ne peut pas étudier. Et aussi, une petite phrase sur la Bible et romans policiers. L'un de mes maîtres, Jacob Gordin, dont je vous parlais tout à l'heure, avait l'habitude de dire que la Bible est le seul roman policier qu'aucun homme n'ait jamais pu écrire. Et il expliquait, dans ce livre, l'accusé est le lecteur. Effectivement, il y a une énigme policière. Qui est accusé et de quoi? Cela commence par une faute, la fameuse faute d'Adam, que les chrétiens appellent la faute originelle, mais certainement pas les juifs. Alors, ça commence par une faute, puis les autres, puis les fautes d'Israël. Et finalement, c'est le lecteur qui est le héros du récit. Fin de citation. Enfin, je voulais vous lire cette petite histoire. Avant vraiment de conclure, qui est la suivante, à propos de l'humour. Cela me renvoie, dit-il, dans un cours qui était destiné au choix d'Israël, c'est-à-dire à l'élection d'Israël et au salut de l'humanité, en quoi le choix d'Israël est un passage obligé pour le salut de l'humanité, voilà ce que disait Manitou. Ceci nous renvoie de nouveau, pas horizontalement, mais en oblique, à la question « Pourquoi Dieu s'est-il choisi un tel peuple ?» J'ai un peu aménagé cette question en la reformulant dans mon vocabulaire en une sorte de midrash que j'ai inventé. Et puis il dit, en aparté, j'en profite pour vous dire que c'est interdit d'inventer des midrashim, et donc ce n'est pas un vrai midrash. Un jour, Dieu a décidé de sauver l'humanité. Il fallait bien intervenir à un certain moment de l'histoire humaine. Ça allait si mal qu'il fallait sauver cette pauvre humanité qu'il avait créée. Alors il s'est dit, par qui commencer? Et il a eu une idée de génie. Il s'est dit, je prends le peuple le plus difficile, si je réussis avec lui, je fais passer les autres. Sur cette question, étudiez un petit livre d'un très grand maître, le Tzidkat HaTzadik du Rabbi Tzadok HaKohen, etc. Vous voyez comment les choses étaient tissées. Et enfin, là on en arrive à ce que disait tout à l'heure Alain Michel, et ce que je vous disais en introduction, c'est que dans cet humour, ce n'est pas un outil pédagogique ou une manière de faire passer le sérieux des enseignements, c'est en tant que tel, si vous voulez, une structure de lecture de la Torah qui donne le souffle, la liberté à chacun d'intégrer la Torah qu'il doit avoir, qui est sa Torah. Et regardez ces quelques mots que Manitou nous délivre à la fin de ce livre, et je vais y arriver. Lorsqu'il se penche, puisqu'on est à la fin de l'index, on est sur le terme vérité, n'est-ce pas? Et voilà, vérité et écriture. Puisque tout à l'heure, je vous parlais du micré, c'est-à-dire de la lecture, puisque l'écriture se dit pas écrit, se dit lecture. Alors, il dit ceci. Écoutez bien. Ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai, mais c'est parce que c'est vrai que cela a été écrit. Méfiez-vous de la superstition de l'écriture. D'ailleurs, pour dire la Bible en hébreu, on ne dit pas l'écriture, ce qu'on a dit tout à l'heure, comme on dit en français les écritures, on dit la lecture. Cela signifie que si l'on ne sait pas lire, donc interpréter, cela beau être écrit, cela n'a aucune valeur. Et après, en ajout, à propos de la vérité, le problème de la vérité et de l'autorité du maître, il dit ceci. Si un jour je vous entends dire, il parle à ses élèves, Manitou a dit, donc c'est vrai, gare à vous. Tant que vous n'avez pas compris pourquoi c'est vrai, ce n'est pas vrai pour vous. Fin de citation. Et je terminerai en vous délivrant quelques réflexions de la quatrième mousquetaire de la bande des quatre, puisque vous savez que l'école de pensée juive de Paris, initiée par Lévinas, Manitou, André Néer et d'autres, quatre, voire cinq d'entre eux sont venus, ont fait leur alia à partir de, après 67, en 68, les années 70. Les quatre noms, vous les connaissez. Manitou, bien entendu. Le professeur Beno Gross, Zichrono Libracha, qui nous a quittés il y a quelques mois, et que j'ai eu aussi le privilège de bien connaître. André Néer. Et peut-être aussi Théo Dreyfus, qui est moins connu, mais qui était un grand personnage, et aussi la quatrième ou la cinquième mousquetaire, je ne sais pas comment on pourrait dire, c'était la professeure Eliane Amado-Lévy-Valency, qui était une sociologue, psychologue, psychiatre aussi, professeure à l'université de Bar-Ilan, qui a écrit de nombreux livres, qui était aussi à certains moments la représentante d'Israël dans les colloques de l'UNESCO, où elle disait que c'était très dur, elle nous a raconté ça à mon épouse et à moi, on a eu aussi le privilège de la connaître. Elle disait qu'elle était, c'était pire que pour Sammis Davis Jr., qui était lui, donc juif, born et noir. Elle était israélienne, juive et femme, et elle défendait les positions de la pensée juive dans des colloques de haut niveau. Et voilà ce qu'elle dit, ce qui est peut-être un peu la clé de notre réflexion sur l'humour en ce qui concerne Manitou. Parce que Manitou faisait des mots d'esprit, en quelque sorte. Et elle cite le fameux ouvrage fondamental de Freud. Elle ne parle pas de Manitou, hein. C'est un livre que je vous recommande aussi, c'est son dernier livre, avant qu'elle nous quitte, La dignité des mots, écrit en 1995 aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond. Et elle dit ceci sur justement le mot d'esprit. Le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, c'est l'ouvrage de Freud. Freud, d'entrée, tente de définir l'esprit. Il ne s'agit pas ici de l'esprit en général, mais de ce qui est impliqué dans le mot d'esprit, l'astuce. Ce quelque chose de ludique qui apparaît dans des significations court-circuitées. Il s'agit, dit Freud, de découvrir le semblable au sein du dissemblable, c'est-à-dire des ressemblances cachées. Et elle explicite en trois mots après, à propos du mot d'esprit. Elle dit ceci, Freud, dès l'introduction de son livre, dépasse déjà son propos, qui est peut-être l'expression la plus condensée de l'ensemble de son œuvre, lorsqu'il montre la nécessité pour l'esprit de découvrir quelque chose de secret et de caché. Ce qu'il vient de signaler à propos du mot d'esprit, et même de la caricature, il tient à le souligner, et là elle cite Freud, touche de plus près à l'essence même de l'esprit qu'à ses rapports avec le comique. Et elle donne un certain nombre d'exemples. C'est-à-dire qu'en fait, la pensée, les moments humoristiques de l'enseignement de Manitou étaient liés, si vous voulez, à sa créativité, à la créativité qui est exigée dans la Torah pour l'interprétation. C'est l'inverse du fanatisme, l'inverse du dogmatisme. C'est que la Torah, enseignée par la structure, le vacuum que crée l'humour, oblige chacun à lire la Torah qu'il doit comprendre avec ses clés de lecture, et c'est ça l'essentiel des choses. Bon, dans un autre moment, on aurait pu parler, mais on n'a plus de temps, évidemment, parce que c'est pour ça que je m'arrêterai là, de Manitou et l'enseignement ésotérique de la Kabbale, mais c'est le sujet d'un autre colloque que je vous propose, pourquoi le Midrash, pourquoi la Kabbale. Je voudrais juste, puisque je fais des conférences en milieu juif et non juif, et que je m'inspire aussi des enseignements que j'ai reçus, je voudrais vous dire la chose suivante, puisqu'on parlait de Manitou qui était soldat dans l'armée française. J'ai ici un passage un peu trop long que je vous lirai pas, sur les passions dans le conflit israélo-palestinien, si tout à l'heure, israélo-arabe, si tout à l'heure l'occasion se présente, je reviendrai sur ceci, mais je voudrais vous lire un passage que j'ai lu entre autres hier soir. J'étais au Kremlin-Bicêtre dans une communauté qui m'a fait plancher sur un des sujets qui me tient à cœur en ce moment. C'est en quoi Tsahal, l'armée d'Israël, est un sujet géopolitique, en quoi Tsahal est une armée morale, et même l'armée qui pourrait être la plus éthique de toutes les armées de la planète, contrairement à l'image qu'on en donne. Eh bien, et j'ai fait, en fait, parce que je fais un travail de recherche universitaire de doctorat sur ce sujet, donc je suis un petit peu au courant, et je cite à la fin de mon intervention ce passage qu'on trouve dans la parole et l'écrit, qui illustre tout le propos où, après toute une série d'analyses, je montre pourquoi Tsahal est moral et comment ce comportement est issu de l'enseignement et de la manière juive d'être soldat, en quelque sorte. Et voilà ce que dit Manitou à propos de ce sujet. Il était interviewé, c'est une interview qui a été donnée, ça remonte à bien avant les opérations de Gaza, n'est-ce pas? Une interview donnée dans la revue Autrement, en 93, dans le numéro 70, qui s'intitulait « Repenser Israël, morale et politique dans l'État juif ». Et lui, il parle tout d'un coup dans l'interview, Grace Lamer lui parce que déjà, vous savez que dans certains journaux, c'est le fin du fin, je crois que c'était la fille de Jean Daniel, au Nouvel Observateur, qui en plein milieu de la seconde intifada, elle avait dit que les soldats israéliens ne violaient pas, alors qu'ils pourraient le faire, les petites palestiniennes ou les femmes palestiniennes lorsqu'ils faisaient des opérations de police dans les maisons, parce qu'ils les méprisaient et que c'était par racisme qui ne violaient pas les palestiniennes qu'ils rencontraient dans les opérations de police. Et alors, ça avait déclenché quand même certaines réactions. Et voilà ce que dit Manitou, et je m'en tiendrai là, en répondant à Grace Lamer. J'ai passé la guerre dans deux corps de métier, la guerre et la Seconde Guerre mondiale. D'abord la Légion, où étaient mobilisés les Juifs algériens, parce qu'ils étaient privés de la nationalité française, et ensuite la coloniale, où j'étais aumônier. Et j'ai pu voir à quel point l'état de guerre est naturel de certains hommes. Non seulement l'état de guerre est naturel pour certains soldats, mais ils effectuent parfois leurs actes de violence avec jouissance. Eh bien non, les Juifs ne sont pas comme cela. Je me suis parfois battu avec des officiers français pour empêcher des massacres de prisonniers allemands, et ils n'arrivaient pas à comprendre comment moi, juif, je réagissais ainsi, et c'est là le fond même de la question. Je vous remercie.
Olivier Cohen, à qui je donne la parole. Il faut dire que vous n'avez pas connu Manitou, je le disais tout à l'heure, vous l'avez dit aussi, et en même temps, vous l'avez rencontré, et on peut dire qu'il a bouleversé en partie votre vie, jusqu'à vous faire organisateur de colloques sur sa pensée. Je vous laisse nous décrire un petit peu ce que j'avais appelé cette rencontre du troisième type.
Donc c'est vrai que j'ai été marqué par la pensée de Manitou, et donc je voudrais, vous expliquer un petit peu le parcours rapidement. Qu'est-ce qu'un juif? Est-ce que cette définition doit se faire en termes confessionnels ou en termes d'identité nationale? Vous avez des juifs qui nous disent « moi je suis juif et religieux ». D'autres nous disent « je suis juif mais surtout pas religieux ». Vous avez encore d'autres qui nous disent « je suis juif et français ». Et enfin, d'autres juifs nous disent « qu'ils sont capables de s'installer dans n'importe quel pays, souvent n'importe quel pays sauf Israël, et de s'y intégrer parfaitement, et c'est le témoignage de la singularité de leur identité si particulière. Et alors comment s'y retrouver dans cette mosaïque d'identité? J'ai décidé de m'intéresser d'un peu plus près à mon identité juive et je me suis mis à étudier. Et sur les conseils de pas mal de personnes, j'ai étudié avec la pensée de Manitou. Alors j'en profite pour remercier Marc Lévy qui m'a fait connaître Manitou et qui m'a permis de pousser la porte derrière laquelle était dissimulée une partie de mon parcours. J'aurais à nouveau remercié le Rav Yosef Atoun qui m'a accompagné sur certains sujets qui étaient compliqués et difficiles d'accès pour moi. Puis je voudrais également remercier mes enfants qui sont là, Gabriel et Salomé, pour leur patience et leur bienveillance suite à mes longues journées d'études. Je crois que depuis une dizaine d'années, on a un invité en permanence à la maison, et je le remercie d'avoir si bien accueilli. Et puis je remercie également mon épouse qui est là également, et qui sans qui tout cela n'aurait pas été permis. Dans mes interventions, j'aimerais respecter un enseignement qu'avait l'habitude de formuler Manitou et que j'ai appris à comprendre. Il disait « L'étude ne se fait pas de bouche à oreille, parce que si on sait ce que la bouche a dit, on ne sait pas toujours ce que l'oreille a entendu. » Et c'est une des raisons pour lesquelles il est préférable d'étudier à plusieurs pour être certain de savoir ce que l'oreille a entendu. En réalité, on n'étudie pas de bouche à oreille, on étudie de bouche à bouche. Ça rejoint un petit peu ce qu'a dit Richard Darmon précédemment. C'est-à-dire qu'en réalité, la bouche doit répéter ce que la bouche a dit, pour éviter de se perdre dans des considérations personnelles qui n'ont pas grand-chose à voir avec notre tradition originelle. J'essaierai donc de respecter cet enseignement et de ne pas faire dire à Manitou des choses qu'il n'a pas dites ou des enseignements qu'il n'a pas tenus. Comme l'a dit Antoine Mercier, je n'ai pas connu Manitou, mais lorsque j'ai rencontré sa pensée, c'est un univers entier qui s'est révélé, un univers dans lequel, du moindre détail jusqu'au plus grand principe, la cohérence était totale, absolue. Un univers d'une profondeur monumentale. C'est avec une érudition foudroyante, sans jamais la moindre note, qu'il parvenait à exposer sa pensée avec profondeur et simplicité. Il parvenait à faire résonner les versets afin qu'ils nous donnent un éclairage sur le monde dans lequel on vit. Son regard posé sur le monde nous manque terriblement pour appréhender les moments difficiles que nous traversons en ce moment. N'ayant pas connu Manitou, j'aimerais ici apporter le témoignage de ma première rencontre avec sa pensée. Alors c'était au temps des récits d'Abraham, et plus particulièrement la paracha de Vayera, à cet instant où la tension se dénoue autour du personnage d'Abraham, et qu'il y a une sorte d'accélération dans les événements qui laisse apparaître le temps d'une nouvelle époque. Et à ce moment, Manitou fait référence au livre de Job, et puis il a cette phrase surprenante, il nous dit « Mais le peuple juif connaît le problème parce qu'il vit actuellement l'histoire de Job. » Alors, je ne connaissais pas grand-chose à notre tradition. Je savais simplement qu'il n'y avait pas de tragédie dans notre tradition parce que tout a un sens, tout mène quelque part, même si provisoirement ce sens nous est caché ou dissimulé. Je savais également que l'interprétation selon laquelle il fallait un juste pour sauver le monde. Et pour que le monde soit sauvé, il fallait que ce juste souffre. Et plus il était juste, plus il fallait souffrir. Et plus il souffre, plus il est juste. N'était pas une interprétation qui était retenue dans notre tradition. C'est d'ailleurs avec ce type d'interprétation qu'on pouvait expliquer l'inexplicable ou justifier l'injustifiable. Pardon. Mais alors, ce grand maître dont on m'avait parlé semblait, à travers cette phrase, conforter cette interprétation surprenante. Il me fallait descendre un petit peu dans la pensée de Manitou. En fait, nous vivons dans un monde dans lequel on côtoie des personnes d'une envergure monumentale et on s'en rend pas compte. Les sages nous disent que la connaissance et la sagesse, c'est un peu comme le sable au fond de la mer. Quand on regarde ça de l'extérieur, tout est au même niveau. On voit pas les différences de niveau, on voit pas les différences de profondeur. Alors pour percevoir, il n'y a que certaines personnes, pardon, qui voient la lumière autour d'un corps, qui témoignent de la profondeur. Pour la majorité d'entre nous, pour connaître la profondeur de quelqu'un, il faut descendre avec lui. C'est ce que je vous propose de faire avec Manitou, mais on va rester prudent. Donc il ne s'agit pas là, bien évidemment, de donner l'interprétation du livre de Job, mais je voudrais quand même en dire deux, trois mots pour pouvoir expliquer cette phrase surprenante. Donc on nous parle de ce Job qui est droit, intègre, craignant Dieu et respectant, craignant Dieu, ce qui est la définition même du juste. Et ce juste va être éprouvé et il va souffrir. Comment comprendre qu'un juste puisse souffrir? Si le sens de l'histoire passe par la loi morale, c'est-à-dire par le respect des valeurs morales, comment comprendre qu'un juste souffre? Comment comprendre cet antagonisme entre la souffrance d'un juste, la conduite, pardon, d'un juste, et son sort dans la vie? Nous voilà au cœur du tragique. Et alors on nous raconte l'histoire de cet homme qui avait tout, le bonheur, la richesse, les biens matériels, les enfants. Il va tout perdre. La seule chose qu'il va garder, c'est sa raison, son nefesh. Et donc on nous dit que cet homme avait une grande famille et que tous les soirs, il va dîner chez un de ses fils, avec toute sa famille, dans une sorte de bonheur absolu. Les enfants de Job vivent dans ce monde-ci comme dans le monde à venir. Il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de réticence à leur bonheur est total. Pourtant, Job a une réserve, il a un doute, il n'est pas sûr. Peut-être que dans leur trop grande jouissance, au moment de ses dîners, ses enfants ont fait une faute. Mais il n'est pas sûr de lui. Alors tous les matins, il offre un sacrifice d'expiation pour expier la faute éventuelle que ses enfants auraient fait pendant ses dîners. Autrement dit, Job est sûr de lui, il n'est pas sûr de ses enfants. Il est sûr de son passé, il n'est pas sûr de son avenir. Peut-être qu'il y a là une faute qui n'est pas habituelle. On est habitué en règle générale aux fautes d'actes. Ce n'est pas ça dont il s'agit ici. Il s'agit d'une faute d'être. Quand on n'est qu'approximativement celui qu'on devrait être, une certaine façon de se rattacher à des valeurs, à des principes, et peut-être que la faute d'être est beaucoup plus grave que la faute d'acte. Quand on n'est pas tout à fait celui qu'on devrait être, qu'on n'arrive pas à se renouveler, à passer à l'étape du dessus. Et alors, Manitou nous permet déjà là d'évacuer le tragique de la situation, puisqu'il y a une raison à la souffrance de Job. Mais alors, il s'interroge avec la tradition orale, et notamment avec Maïmonide et son guide des égarés, est-ce que Job a existé? Dès le début du récit, l'histoire nous dit qu'elle se passe dans la ville de Houtz. Etsa, qui signifie en hébreu « là où les gens réfléchissent », c'est comme si on nous parlait du pays de la sagesse ou de l'utopie. D'entrée, le récit veut nous faire comprendre qu'il s'agit d'une histoire pour nous servir d'exemple, pour nous faire réfléchir. Mais alors, est-ce qu'on peut définir un type existentiel, un profil d'identité au personnage de Job? C'est la tradition orale qui va nous donner les clés de lecture du récit de Job. En réalité, Job a vécu à l'époque d'Abraham, il a vécu à l'époque de la sortie d'Égypte, il a vécu à l'époque du règne du roi David et au moment du retour des exilés de Babel. En fait, Job vit à la jonction, à la charnière de deux époques. C'est le juste des temps antérieurs et il n'arrive pas à se renouveler, il n'arrive pas à s'adapter à la mutation d'identité qui est en cours. Alors, lorsque le juste des temps qui viennent émerge, il devient un juste préhistorique et il se met à souffrir. Lorsque Avram se circoncit et devient Abraham, il renvoie au passé, il disqualifie tout ce qui existait avant lui. Il devient le juste des temps qui viennent. Et alors, le juste des temps antérieurs devient un juste préhistorique. Terah, le père d'Abraham, se met à souffrir. Il ne sait pas pourquoi il souffre, mais il souffre. De la même manière que la sortie d'Égypte est le moment où le monde de l'homme a vécu son évidence expérimentale. Il y avait avant la sortie d'Égypte, il y aura après la sortie d'Égypte. On vit à la jonction, à la charnière de deux temps, et la sortie d'Égypte disqualifie tout ce qui existait avant. Autrement dit, Job, c'est le juste des temps antérieurs, qui devient préhistorique au moment où le juste des temps qui viennent émerge, il disqualifie. Et alors on comprend pourquoi Manitou fait référence au livre de Job, au moment où, précisément, où Abraham, qui se connaît comme le point d'arrivée d'un projet de civilisation qui a abouti jusque lui, parvient à infléchir sa trajectoire d'identité et à devenir précisément le juste des temps qui viennent. Autrement dit, dans le projet de civilisation, l'objectif c'était Abraham, et au moment où on arrive à Abraham, Abraham arrive à infléchir sa trajectoire d'identité, à se renouveler, pour devenir lui-même le juste des temps qui viennent. Il disqualifie Job. Mais on ne comprend toujours pas pourquoi Manitou nous dit que le peuple juif vit l'histoire de Job. Alors il nous faut descendre un petit peu plus dans la pensée de Manitou, qui nous apprend à nous rapprocher de celui qu'on devrait être. Manitou avait l'habitude de dire, pour revenir à ce que je disais au départ, la Bible ne parle pas des juifs. C'est un anachronisme épouvantable de dire que Moïse était juif ou que Jacob était juif. Ils étaient hébreux. En fait, il y a eu un événement important, c'est la destruction du temple, puis l'arrêt de la prophétie, qui s'est fait comme un phénomène de rémanence, c'est-à-dire que la disparition s'est fait petit à petit, progressivement, pour finir par disparaître et se transformer en quelque chose d'autre. Après le règne du roi Salomon, il y a eu le schisme entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Nord a cédé le premier, et le royaume du Sud, le royaume de Juda, est resté quelques 200 ans comme, on va dire, représentant l'intégralité de l'identité hébraïque. Autrement dit, deux tribus et demie représentaient les 12 tribus. Et on a fini par appeler les Hébreux vivant dans le royaume de Juda des Judéens. Et lorsque le temple a été détruit, que l'exil a commencé, on a fini par appeler les Judéens des Juifs. Autrement dit, lorsque l'Hébreu bascule dans l'exil, il devient juif. D'une nation vivant sur sa terre, les Hébreux sont devenus un peuple dispersé, resté fidèle à un projet d'identité, avec une longue parenthèse d'identité de survie, qu'est la condition juive précisément, rattaché au passé, à la nostalgie de la destruction de la nation hébraïque, détruite en fin de compte par Rome, et rattaché au futur, à l'espérance de la reconstruction de la nation hébraïque, qu'on a appelé dans la plus pure tradition le messianisme, et qui est devenu le sionisme. Autrement dit, il y a 2000 ans, les Hébreux ont basculé dans l'exil, et ils sont devenus juifs. Et aujourd'hui, les juifs ont la possibilité de retrouver la racine de leur identité, qui n'est pas juive, mais hébraïque. Lorsque l'hébreu bascule dans l'exil, son identité mute, se transforme dans une ambiance de maquis, de clandestinité, de camouflage, avec une sorte de déguisement, une écorce de protection qui permet... Et c'est vrai qu'il est surprenant de voir que c'est l'identité juive qui a permis à l'identité hébraïque de se survivre à elle-même. Mais l'identité juive a toujours eu une vocation provisoire entre deux temps hébreux. L'identité juive a toujours été considérée comme étant provisoire et amenée à disparaître. Mais le provisoire a duré tellement longtemps, l'exil a été tellement long, qu'on a fini par inverser les évidences d'identité et qu'on a fini par considérer comme définitif une identité qui avait vocation à être provisoire. Autrement dit, il y a vraiment une différence entre l'identité juive et l'identité hébraïque. Magnitudiser l'identité juive, c'est un hébreu à l'indice de telle ou telle nation, alors que l'identité hébraïque, c'est un juif à l'identité de l'humanité tout entière. Lorsque l'hébreu bascule dans l'exil, il devient juif, et lorsque les temps du retour ont sonné, le juif doit se débarrasser de son déguisement, de son écorce de protection, pour redevenir hébreu. Et c'est ce que fait Abraham. Abraham n'est pas un Mésopotamien qui d'un seul coup découvre l'identité juive ou la religion juive et décide qu'elle est bonne pour lui. Abraham, c'est un hébreu. Il est né en exil, à Or Kasdim. Son identité est araméenne. Et il va faire un effort considérable au niveau des valeurs morales pour se débarrasser de son écorce de protection et pour retrouver la racine de son identité qui est enfouie clandestinement à cause de la situation d'exil, qui est rendue clandestine, enfouie profondément à cause de la situation d'exil, et qui est l'identité hébraïque. Qu'est-ce que c'est que l'identité araméenne? Le mixte entre l'hébreu et la civilisation dominante à l'époque d'Abraham, qui est la civilisation babylonienne, donne l'araméen, de la même manière que le mixte entre l'hébreu et la civilisation dominante de notre temps, qui est l'Empire romain, donne le juif. Autrement dit, le juif, c'est un araméen moderne. Alors, à partir de là, lorsque l'identité enfouie à l'intérieur est destinée à remonter, c'est que le temps est revenu. Manitou avait l'habitude, aimait bien raconter cette histoire de ce jeune garçon qui tombe malade. Et alors son père lui prépare un sachet de médicaments et il lui dit, tiens, prends ces médicaments et tu pars, tu reviens quand tu es guéri. Alors le fils s'en va et puis le temps passe et le père n'a pas de nouvelles du fils. Alors il arrive un moment où le père s'inquiète et il dit, bon ben, je vais appeler mon fils, j'ai pas de nouvelles. Il appelle son fils et lui dit, mais alors tu n'es pas guéri? Alors le fils lui répond, si je suis guéri, ça fait longtemps, mais il me reste des médicaments. Alors j'attends. Jette tes médicaments et rentre chez toi. Jette ta galoute et rentre chez toi. C'est le message qu'avait l'habitude de donner Manitou. Il aimait également bien raconter sur ce sujet ce midrash au moment où Moïse se retrouve sur le mont Sinaï et Dieu lui dit qu'il va aller chercher son peuple en exil et qu'il va aller le délivrer pour le faire rentrer sur sa terre. Et à ce moment Moïse lui dit, mais ils vont pas me croire. Alors Dieu lui donne un signe. Il lui dit, mets ta main sur ton ventre. Moïse met la main sur son ventre. Puis il lui demande de la retirer. Il retire sa main et Moïse a la main toute blanche, il est atteint par la lèpre. Puis Dieu lui dit, remets la main sur ton ventre. Il remet la main sur son ventre. Puis Moïse la retire et sa main est guérie. Et alors, au-delà du signe, qui est très important, puisque c'est lorsqu'on a trouvé la personne qui est capable d'inverser les contraires, de rendre impur le pur et de rendre pur l'impur, que les temps du retour ont sonné. Comme dirait Manitou, c'est un sujet pour lui-même que je ne vais pas aborder ici. Et au-delà de ce signe, les commentateurs du Midrash s'interrogent et se disent, Pourquoi Moïse a été touché par la maladie? On aurait pu lui faire comprendre que les signes étaient arrivés et sans pour autant qu'il soit touché par la maladie. Alors certains commentateurs se disent, peut-être que c'est parce que Moïse a douté, c'est parce qu'il a dit que son peuple allait manquer de foi. Très bien, peut-être. Mais quand on lit la suite de récits, on s'aperçoit que Moïse avait raison. Et le peuple va manquer de foi. Alors, pourquoi? Et donc Manitou expliquait le Midrash en disant, ils sont croyants et fils de croyants. Autrement dit, c'est pas que le peuple a manqué de foi, c'est qu'ils se sont trompés de foi. Ils ont cru comme autant des pères, alors qu'ils étaient autant des fils. Il y a une polarité d'identité entre l'identité père et l'identité fils. L'identité père, c'est une identité de promesse. On peut croire en des promesses de manière totale et absolue. Nos pères, d'ailleurs, Abraham, Isaac et Jacob, ont cru aux promesses de manière inébranlable et c'est aussi ce qui a contribué à leur mérite. Mais au moment de la réalisation, il ne s'agit plus de promesses. Au temps des fils, il s'agit de réaliser. Et donc il ne s'agit pas de croire aux promesses, il s'agit de réaliser. Et ce sont eux qui se heurtent aux difficultés parce que précisément, ce sont eux qui doivent réaliser. Pourquoi eux? Parce que ce sont les fils de ces pères-là, ceux à qui on a fait les promesses. Et aujourd'hui, cette polarité d'identité s'est déplacée. Elle existe désormais entre l'identité diaspora et l'identité Israël. L'identité diaspora, c'est une identité de type père. En quoi croit un juif de diaspora? Il croit aux promesses. Il croit qu'un jour il va rentrer chez lui, en terre d'Israël, à Jérusalem. Alors on ne se rend pas compte que c'est possible. Hein. On peut le faire aujourd'hui. Peut-être parce qu'on croit à la Jérusalem céleste et scintillante, et qu'on ne se rend pas compte que les choses doivent se faire ici et pas ailleurs. Peut-être parce qu'on croit au monde à venir, au temps à venir, et on ne se rend pas compte que le temps à venir, c'est ici qu'il se joue et pas ailleurs. Alors que l'identité Israël, c'est une identité de type fils, puisque ce sont eux qui doivent réaliser. Ce sont eux qui doivent réaliser les promesses. C'est la même différence qu'il existe entre l'idéal du projet et les difficultés de la réalisation. Alors, ça me fait penser à une histoire que racontait aussi Manitou. C'est un paysan qui n'a plus d'argent, qui n'arrive plus à faire vivre ses enfants. Il va voir un rabbin et lui dit « Vraiment, c'est la catastrophe, ça va pas, je n'arrive plus à aligner le deux bouts. » Et le rabbin a une idée, il lui dit « Ah, je connais une terre très fertile, tu vas aller dessus, tu vas voir, elle va donner beaucoup de choses, elle est extrêmement fertile, je suis sûr que ça va très bien réussir. » Le paysan remercie le rabbin, donc le temps passe, et puis à un moment le rabbin se souvient du paysan, il se dit « Tiens, je vais aller lui rendre visite, je vais voir comment ça se passe. » Et donc il va sur le terrain, et il voit le paysan assis sur un tabouret, sur son champ en friche. Alors le rabbin lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et alors le paysan se retourne vers le rabbin et il lui dit « Monsieur le rabbin, je vous promets, je comprends pas, je prie 3 fois par jour et il se passe rien. » C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. Et c'est vrai qu'il y a 2 types d'épreuves. Il y a une épreuve de foi et une épreuve de réalisation. L'épreuve de foi, c'est une épreuve de capacité d'espérance. L'épreuve de réalisation, c'est une épreuve de capacité à révéler son identité. C'est une épreuve d'authenticité de son identité. Vivre le temps de la promesse au temps de la réalisation, c'est comme si on quittait la réalité et on basculait dans une identité mystique, mystique, qui n'a plus grand-chose à voir avec notre tradition originelle. On continue de façon anachronique la vertu de la foi dans le temps de l'attente, au moment de la réalisation. Au moment de la sortie d'Égypte, il y a 1/5 des Hébreux qui a suivi Moïse. Les 4/5 lui ont dit « Tu bégayes, tu sais pas parler hébreu, tu parles égyptien. » Ceux-là ont disparu dans les sables de l'histoire. De la même manière que les religieux qui ont dit à Théodore Herzl « Tu bégayes, tu n'y connais rien à la religion, tu sais pas prier. » Ceux-là n'ont pas vu l'événement massif, monumental qui s'est déroulé sous leurs yeux avec la création de l'État d'Israël. Les portes se sont ouvertes en 1917 avec la déclaration Balfour, et a permis à de nombreux juifs de rentrer, de se débarrasser de leur déguisement, de se débarrasser de leur écorce et de retrouver la racine de leur identité qui est hébraïque. On ne sait pas quand les portes vont se refermer, mais à ce moment-là, il sera trop tard pour ceux qui restent. On comprend alors pourquoi Manitou nous dit que le peuple juif vit l'histoire de Job. Le peuple juif, c'est le juste des temps antérieurs, et il vit à la jonction, à la charnière de deux temps. C'est le juste des temps préhistoriques, et il n'arrive pas à s'adapter à la mutation qui a lieu, à la mutation d'identité en cours. Il n'arrive pas à se débarrasser de son écorce de protection pour retrouver la racine de son identité qui est enfouie profondément à cause de la situation d'exil, et qui est l'identité hébraïque. Alors il devient préhistorique, parce que le juste des temps qui viennent a émergé, il existe, il a un nom, c'est Israël, c'est l'Israélien. Alors confronté à cette pensée, j'étais un peu comme un jeune enfant qui dîne au milieu de sa famille. Comme tous les jeunes enfants, il se ronge les ongles, et au moment du dessert, il veut manger une mandarine, et forcément il n'arrive pas à faire sauter le premier morceau d'écorce qui lui permettrait d'éplucher sa mandarine. Alors il demande à quelqu'un de sa famille de lui faire sauter ce morceau d'écorce pour pouvoir manger cette mandarine. Manitou, c'est un peu un ouvreur d'écorce. En plus, il fait partie de la famille. Il était proche même quand il était loin. Quand on étudie avec Manitou, l'écorce s'enlève. Et c'est vrai que lorsqu'il s'éloigne, alors le quotidien reprend le dessus. L'écorce se rapproche du fruit et tente de se reconstituer. Et c'est vrai que quand on étudie avec Manitou, c'est pas simplement un approfondissement de connaissances, c'est un travail au bout duquel l'être va finir par devenir et la Torah va finir par parler.
J'avais quand même envie de vous demander une toute petite question. Vous dites que vous n'avez pas rencontré Manitou et vous parlez de cette étude avec Manitou. Comment, simplement, avant de donner la parole à Uri Cherki pour terminer, avant qu'on aille ensuite voir quelque chose. Comment vous avez fait, vous, pour avoir ce contact, et comment ça se passe concrètement pour étudier? Je sais que le Académ, notamment, le site Tout Manitou, permet d'avoir des contacts comme ça direct avec ses cours audio, parfois pas toujours de très bonne qualité. Comment ça s'est passé? Vous avez tout écouté? Juste un petit mot là-dessus, peut-être, pour qu'on comprenne d'où vous parliez quand vous avez fait cette intervention.
Oui, il nous filme, donc je peux faire de la publicité, il n'y a pas de problème.
C'est pas ce que j'ai voulu faire. Hein.
Mais un grand merci à Académ et notamment à Tout Manitou.
Vous avez passé de nombreuses
heures.
Il y a les milliers d'heures qui sont disponibles comme ça.
J'ai probablement pas fait le millier d'heures, mais c'est vrai que j'en ai fait pas mal. Et comme je le disais, on a depuis une dizaine d'années un invité en permanence à la maison.
Notre invité, le Rav Uri Cherki. Je passe sur les présentations. Bon, on a dit que vous étiez un des héritiers, le principal héritier ou disciple ou continuateur de Manitou. Est-ce que vous acceptez cette définition, cette qualité?
Bonsoir.
Bonsoir.
Je pense que quelqu'un de grand, quand on dit tel homme est un grand homme, c'est quelqu'un dont vous ne pouvez pas savoir ce qu'il aurait dit s'il avait vu une nouvelle situation. Donc, si vous dites de quelqu'un qui se prétend être l'héritier de Manitou parce que il dit ce que Manitou aurait dit dans tel ou tel cas, en fait, il se trompait sur la grandeur de Manitou ou de tout grand homme. À part ça, vous n'allez quand même pas vous imaginer que je vais accepter un éloge de ce genre en public. Ça se fait pas. Bon. Je vais essayer d'être rapide. Je sais que la première session nous laisse très peu de temps. Mais je voudrais quand même peut-être vous dire ce que Manitou m'avait dit lors de la représentation, lorsqu'il a été invité au théâtre de Jérusalem avec justement tout ce grand monde qui était venu. Il y a eu une interruption au milieu, on a mangé des gâteaux. Un peu comme la collation qu'il va y avoir là maintenant. Et je vois Manitou, il me dit, tu sais, on a parlé de tout sauf de l'essentiel, mais c'est pas grave. Et c'est effectivement assez surprenant quand on entend parler Manitou, quand on entend parler de son enseignement, c'est qu'on se demandait mais de quoi il parle. Et alors on me disait, ben, il a dit des banalités. J'ai connu ça un peu également chez le maître de Manitou, le Rav Tzvi Yehuda Kouk, quand il parlait, nous les élèves, on se demandait mais qu'est-ce qu'il a rajouté que nous ne savions pas? Et puis après sa disparition, la disparition du Rav Tzvi Yehuda Kouk, on s'est dit, tiens, il était le seul à dire ces choses-là. Eh bien, c'est à peu près la même chose chez Manitou. Il était le seul à dire ces choses-là. Et ce qui est assez remarquable, c'est de voir effectivement comment son enseignement a laissé une trace à tel point que quelqu'un qui n'a pas connu, c'est comme s'il l'avait connu. Et c'est en cela, je pense que c'est une grande réjouissance. Je voudrais simplement vous dire quelques petites notes. Tout d'abord, c'est que Manitou, quand il parlait de la Torah, il disait quelque chose de très important. C'est que quand on veut savoir ce que dit la Torah, eh bien, il faut lire la Torah. Et c'est pas du tout évident, parce qu'aujourd'hui, vous aurez certainement, ce que je dis, c'est de la Torah, surtout si mon chapeau est large et ma barbe longue. Et là, il y avait ici un chidouche absolument énorme. C'est que ce que dit la Torah, ce n'est pas toujours ce qu'on s'imagine que la Torah dirait. Je voudrais vous parler peut-être un peu de Manitou. On m'a demandé de donner un témoignage de Manitou. Je veux dire, j'étais très embarrassé par ça. Pour raison très simple, c'est quand vous avez connu quelqu'un de très proche et qu'on vous demande d'en parler, ben vous n'avez rien à dire. J'ai eu le privilège d'une certaine proximité avec Manitou. Et je me rappelle même, son père était un ami de mon grand-père, lui-même était un ami de mon père. Enfin bref, on se connaît, quoi, c'est un peu dans la famille. Et je voudrais vous rappeler un trait de famille de Manitou. Vous savez que Manitou descendait, comme vous l'avez si bien dit, d'un des élèves du Hari. C'était Rabbi Yosef Ibn Toboul, qui était l'ancêtre donc de son grand-père, Rabbi Chaim Toboul. Et il y avait dans la tradition de la famille qu'il y avait eu une controverse à propos de l'interprétation du Tzimtzum, terme kabbalistique, entre Rabbi Chaim Vital et l'ancêtre de Manitou, Rabbi Yosef Ibn Toboul. Et que cette controverse a été assez dure, mais que finalement ils se sont réconciliés. Il y avait une tradition dans la famille de Manitou que les descendants de Rabbi Chaim Vital et les descendants de Rabbi Yosef Ibn Toboul devaient donner respectivement les noms de Yosef et de Chaim génération après génération pour signaler cette réconciliation. Et en plus de ça, on faisait la cérémonie de l'Azkara de chacun dans chaque famille. Ce qui fait que quand Manitou était petit et que dans sa famille on faisait la Azkara de Rabbi Chaim Vital, il était persuadé que c'était quelqu'un de sa famille. C'était tellement présent. Pourquoi je vous raconte ça? Pas simplement par curiosité anecdotique, c'est simplement parce que ça veut dire que dans la famille de Manitou, le Hari faisait partie de la famille. Et c'est à partir de cet enracinement familial que, après, toutes les grandes idées du judaïsme se développent. Souvent, on vous parle, vous savez, il faut parler du judaïsme. Le judaïsme en termes abstraits. Mais pour Manitou, le judaïsme, c'était du quotidien. C'était du personnel, du personnalisé, et pas de l'abstrait. Et ce point de vue-là, c'est très important. J'hésite à tout vous raconter. Simplement, je voudrais vous dire que, bon, on a ici mentionné le fait que Manitou divisait sa vie en trois. Sa période algérienne, sa période française et sa période israélienne. Il faut savoir que pour Manitou, ça correspondait également, un peu comme dans l'imaginal de Freud, aux trois dimensions de la vie de Moïse lui-même, qui lui a pensé à un moment de sa vie qu'il était égyptien, et puis après il a découvert qu'il était midianite, et après finalement il est devenu hébreu. Et il y a eu un peu de ça également, et ça se recoupe de manière assez surprenante dans les trois maîtres de Manitou. Vous savez que Manitou a eu un maître exilique, Jacob Gordin, et puis après il a connu la Kabbale du Rav Ashlag, et après il a également connu l'enseignement du Rav Tzvi Kook, et on peut dire que de chacun de ces trois maîtres, il a reçu les trois dimensions de sa réflexion. D'une part, la Kabbale, et puis après, la philosophie, et après, la prophétie. On peut dire que Manitou a été original, je pense que c'est ça le secret de la force de son enseignement, c'est qu'il a parlé un langage tout à fait nouveau. Est-ce que Manitou est un philosophe? Est-ce que Manitou est un rabbin? Certainement pas, ni l'un ni l'autre, bien que étant philosophe et remplissant des fonctions rabbiniques. On veut dire que Manitou a inventé un nouveau langage. Il avait besoin, pour exprimer pour exprimer ses idées, de forger des termes qu'il était le seul à forger. D'ailleurs, on comprend, d'ailleurs, quand il nous parle de Moïse comme étant réticent à partir pour enseigner aux enfants d'Israël, justement parce que les enfants d'Israël ne le croiront pas. Et Manitou disait, imaginez quelqu'un, puisque Moïse avait l'air égyptien, qu'il devait parler de la promesse faite à leurs ancêtres, aux Hébreux, de les ramener en Eretz Israël. Alors Manitou disait, imaginez quelqu'un qui doit parler de sagesse ancestrale en termes de culture générale. Ben, il parlait de lui-même. D'accord? Tout ça se retrouve finalement dans un enseignement du Ben Ishraï que Manitou affectionnait beaucoup, c'est une gématria. Et une gématria qui est amenée par le Rav Ben Ishraï, le Rav Yosef Haïm de Bagdad, qui est que le mot Israël, Israël en hébreu, a la valeur numérique de Yaakov, Moshe et David. Yaakov, c'est le fondateur du peuple d'Israël. Moshe, celui qui a donné la Torah d'Israël, et David, celui qui a donné Eretz Israël. Or, il n'y a d'Israël que dans l'intégralité de ces trois-là. Et Manitou disait toujours qu'il y a trois organisations. Il y a l'organisation sioniste mondiale qui, elle, s'occupe des restes d'Israël. Puis il y a l'organisation, le congrès juif mondial qui s'occupe des juifs. Et il y a le rabbinat qui s'occupe de la Torah. Et c'est qui Israël ? Ben, c'est les trois à la fois. Et ça ne peut être que les trois dans leur authenticité. Donc si c'est la Torah, alors c'est toute la Torah. Si c'est Israël, alors c'est tout Israël. Et si c'est Eretz Israël, c'est tout Eretz Israël. Ça ne peut pas se diviser. Et d'où l'exigence d'intégralité qu'il y avait chez Manitou. Il y a aussi un point que je voudrais mettre en évidence, c'est que chez Manitou, il y avait une rigueur de pensée très 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 exacte associée à une profonde humanité. On a parlé tout à l'heure de l'humour de Manitou. Cet humour justement était nécessaire pour que la rigueur puisse passer. Ce qui explique pourquoi les jeux de mots étaient parfois des jeux de mots pleins de bon sens, comme vous l'avez si bien signalé. Mais il y avait également des jeux de mots tout courts, tout simplement quand il disait qu'un viendra un jour en Eretz Israël, on sera à l'abri. Eh bien, ça veut dire que ceux qui habiteront à Natania auront un abri côtier, ou bien que un midrash n'est que la moitié d'un drash, ou bien que si on parle d'athéisme, c'est qu'à l'heure de mincha, eh bien l'athée fila. Oui. Bon, ça vous fait rire, donc c'est bien. D'ailleurs, si on a déjà parlé de la guerre du Golfe, je me rappelle très bien que quand Manitou avait parlé justement au moment où il y avait une très grande tension, on ne savait pas ce qui allait se passer, alors je dis à Manitou, alors ça gaz. Alors il me dit, je crois que Bush va jouer au golf. ça veut dire que c'était absolument nécessaire pour justement pouvoir faire passer des messages. De là, j'ai appris une chose très importante, c'est qu'en général, les jeux de mots ou les blagues qui sont dites dans un cours, c'est en général c'est ça dont on va se rappeler. C'est-à-dire, si vous demandez à quelqu'un, mais qu'est-ce qu'il a dit Manitou dans sa conférence ? Ben, il a fait telle et telle blague. Et le reste, qu'est-ce qu'il a dit ? Ah ben, on ne sait pas très bien ce qu'il a dit. Mais finalement, en se souvenant de la blague de Manitou, eh bien, après 20 ans, on se dit, ah ben, c'est ça qu'il avait dit. On commence à s'en rappeler. Je vois ici la mimique de Richard Darmon, je vois qu'il est tout à fait d'accord avec moi, ce qui me fait plaisir. Il y a dans la pensée de Manitou une très grande influence du Maharal de Prague. Et ça, c'est important d'en parler un peu. Vous savez que le Maharal de Prague vivait à Prague. Il est mort vers 1600 quelque chose. Donc, ça fait déjà plus de 400 ans. Et Manitou disait qu'il y a un temps pour chaque maître. Et le temps du Maharal de Prague est arrivé à peu près à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un fait absolument surprenant, c'est que simultanément, dans différents endroits de la planète, on a commencé à enseigner le Maharal au même moment. Jacob Gordin a enseigné pendant la Deuxième Guerre mondiale le Maharal de Prague. Au même moment, à New York, le Rav Yitzhak Kuttner enseignait le Maharal. À Jérusalem, le Rav Harlap, l'élève du Rav Cook, et au même moment, à Londres, enfin plus heureusement en Angleterre, mais je ne sais plus très bien, je crois à Manchester, c'était le Rav Eliyahu Dessler qui a donné des cours de Maharal. Donc il y a eu un moment de l'histoire où c'est la doctrine du Maharal, l'enseignement du Maharal qui donne quelque chose. Et puis je me rappelle très bien qu'un jour, Manitou est venu chez mon père et il lui a dit, voilà, la semaine dernière, j'ai fini mon cours de Derech Haïm sur le Maharal de Prague avec un groupe qui a étudié chez moi pendant 8 ans. Et maintenant, je vais commencer avec eux le Likutei Moharan de Rabbi Nachman de Breslav, parce que jusqu'à présent, c'était le temps du Maharal et que maintenant, c'est le temps de Rabbi Nachman de Breslav. Moi qui étais très jeune à l'époque, je me disais, mais enfin, ça va pas la tête. J'étais un peu insolent à l'époque, mais enfin, je me dis, mais enfin, d'où est-ce qu'il a été chercher tout ça? Qui sait d'abord le Likutei Moharan? Personne n'en a entendu parler. Or, c'est absolument vrai. À l'époque, personne ne connaissait l'enseignement de Rabbi Nachman de Breslav, sauf quelques initiés. Puis, brusquement, dans 2-3 mois, brusquement, on entend partout, dans tout le pays, des gens qui commencent à enseigner le Likutei Moharan, sans avoir eu une instruction de Manitou. C'est-à-dire, il faut savoir, il y a un point très important dans l'enseignement de Manitou, c'est qu'il faut savoir à quelle époque on vit. Et il disait, il y a un texte de la Torah qui dit que lorsqu'on a un doute en halakha, on va voir le juge de cette époque. Ou vata el hashofet asher yebayamim ahem. Tu iras voir le juge qui sera en ce temps-là. Ce qui est une banalité. C'est évident que si je vais voir un juge, c'est qu'il vit de mon temps. Je vais pas voir un juge qui ne vit pas de mon temps. Et Manitou disait, non, ça veut dire que tout à fait autre chose. Que quand tu vas choisir un juge, tu vas choisir un maître, il faut que tu diagnostiques que c'est un juge qui vit de ton temps. Que tu saches qu'il a compris la nature de l'époque, et c'est très important à des moments de tournant historique. Quand il y a un tournant historique, c'est le moment où il faut savoir ne pas se tromper de Torah. On a parlé de Job, justement, comme vous l'avez si bien dit. Job est un tzaddik, mais c'est un tzaddik d'un autre temps. Comme c'est un tzaddik d'un autre temps, alors il souffre. Il souffre non pas parce qu'il a fait un péché, il n'a pas fait de péché, il n'a pas fait de transgression, mais il n'est pas adapté à son époque. La preuve, c'est qu'il craint de ne pas pouvoir transmettre son enseignement à ses enfants. Et donc, il faut être le tzaddik de sa génération. C'est pour ça qu'il y a parfois des générations dont on dit qu'elles sont des générations orphelines, d'or yatom. C'est pas qu'ils n'ont pas de père, mais les pères sont d'une autre époque. Et à quel moment de l'histoire ce genre de question peut se poser? Si les générations se ressemblent les unes après les autres, si vous avez une génération qui ressemble à la génération passée, c'est pas très difficile de transmettre un enseignement à une génération qui ressemble à celle de votre arrière-grand-père. C'est quand il y a un tournant décisif dans l'histoire que le problème peut se poser. Or, c'est quoi les tournants décisifs de l'histoire? Pour le peuple d'Israël, c'est soit partir en exil, c'est soit sortir de l'exil. Or, la Torah nous dit, Tzedek, tzedek, tirdof, les mains tiriez via rachta et taharetz, il faut que tu choisisses la vraie justice afin que tu vives et que tu hérites de la terre. C'est quoi la vraie justice? Eh bien, Rashi nous dit, halach achar bedin yafeh, il faut choisir un beau bedin. D'ailleurs, comme vous l'avez dit, c'est quoi un restaurant bedin? C'est un restaurant où les bedin. Et donc, il faut trouver donc un bet-din yafeh, un beau bet-din, dit Rashi. C'est quoi un beau bet-din? Eh bien, la suite du verset nous le dit. C'est un bet-din, un tribunal rabbinique, dont la conséquence de ces décisions, c'est chez Léman, Tichye, Véarachta, Tares, afin que tu vives et que tu hérites de la terre, Kedai, Huminu, Yadayani, Makshirim, la nomination des bons juges, nous dit Rashi, de faire vivre Israël et de les installer sur leur terre. Ça veut donc dire que si le maître du temps, du tournant historique, comprend son rôle, il doit arriver à un résultat double. Faire vivre Israël et qu'il soit installé sur sa terre. Quel serait le contraire? Le contraire, ça serait une décision rabbinique qui dit qu'il faut choisir entre vivre sur la terre et vivre. Et on peut trouver effectivement ce genre de tentation. On se dit, étant donné que le piquar nefesh, le danger pour les vies humaines, ça repousse la Torah, alors en ce cas-là, il vaudrait mieux renoncer à Eretz Israël pour être en vie, etc. Et la préscience du chacham, du temps, du sage, du temps du retour, c'est justement de comprendre que la vie passe par Eretz Israël. Je voulais parler de l'enseignement du Maharal de Prague. Il y a un point important qu'il faut mettre en évidence dans l'enseignement de Manitou, et là je vais m'arrêter parce que je sais que vous avez besoin quand même de vous restaurer un peu et que nous allons continuer par la suite. Mais il y a une différence entre Manitou, élève du Maharal de Prague, et Manitou, élève du Rav Kook. Ce n'est pas exactement la même chose, pour une raison très simple. C'est vrai que le Maharal dit ce que le Rav Kook dit, mais il le dit dans l'exil. Et il y a dans l'enseignement du Maharal de Prague, une dualité entre la sainteté et la nature que le Rav Kook a réussi à dépasser. Dans l'enseignement du Rav Kook, il y a une harmonie, une unité de la nature et de la sainteté, tandis que chez le Maharal de Prague, il y a une opposition de principe. Or, Manitou affectionnait justement ce qu'il appelait la tension existentielle qu'il y a entre les deux. Il s'appelle Metarkiyumi, et Manitou revenait souvent là-dessus. Et on peut dire que pour lui, le chidouche, la nouveauté de l'enseignement du Rav Kook, c'est justement que l'on peut vivre une vie d'harmonie. Cette vie d'harmonie s'exprime entre autres, dit Manitou, par la joie que l'on ressent lors d'un mariage. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont vu des mariages, et Manitou faisait remarquer qu'il y a un point très important lors d'un mariage, c'est qu'il y a un moment de joie. Sous la choupa, il y a un moment très court, mais très intense, d'une joie irrésistible. Il dit, Manitou, c'est parce que c'est le seul moment de la vie où le Yetzer HaTov et le Yetzer HaRa veulent la même chose. C'est le bon penchant et le mauvais penchant veulent la même chose, ce qui est la preuve que nous ne vivons pas en enfer. C'est-à-dire la capacité de vivre une vie véritablement harmonieuse. On peut dire que Manitou avait également une faculté assez importante que j'ai pu rencontrer chez beaucoup de rabbins d'origine algérienne, j'en ai connu plusieurs dans ma vie, et chacun avait ses opinions, chacun avait sa manière d'exercer son ministère, si vous voulez. Mais j'ai remarqué qu'il y avait un dénominateur commun à tous ces maîtres, c'est qu'ils étaient normaux. C'est la normalité, la joie de vivre, l'immédiat du vécu, ce sont des choses très importantes qui étaient vécues, entre autres, par les maîtres d'Algérie, et dont Manitou était le représentant fidèle. Rappelons simplement une chose pour en finir, c'est que Manitou disait que quand deux rabbins se rencontrent, ils éclatent de rire. Et s'ils n'éclatent pas de rire, c'est que ce n'est pas des rabbins. Merci.
J'avais envie de vous demander quelle est la tendance aujourd'hui par rapport à l'enseignement, parce qu'on a été attiré par le fait que vous disiez qu'à chaque époque, il y avait
une
référence.
Par exemple, vous savez que nous vivons actuellement une époque de terrorisme en Eretz Israël. Et que vous avez des réactions toutes contentes de certains maîtres qui vous diront oh, « Heureusement, nous sommes enfin revenus à l'époque des pogroms et des cosaques ». C'est-à-dire, nous nous y retrouvons dans une atmosphère du juif persécuté. C'est là que nous nous sentons véritablement juifs, parce que ça veut dire que le seul sur lequel nous pouvons tenir, c'est le bon Dieu. Il n'y a rien de plus contraire à la Torah que ce genre de discours, et pourtant il est légitimé comme étant le discours officiel parfois d'un certain judaïsme, et je pense que c'est important justement de remettre les points sur les i de ce côté-là.